Et bienvenue dans l'ère de repos. Je suis avec Jonathan.
Salut à tous.
Et moi c'est Victor, et donc on va vous présenter ce nouveau concept qui fait partie de l'univers étendu du podcast Déviation, avec tous les autres projets avortés les choses qui ne verront jamais le jour. Mais celui-là verra le jour. Donc l'ère de repos, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission dans laquelle on va prendre le temps de parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Et qu'on a décidé de développer parce qu'on voulait pouvoir en discuter tranquillement et puis se faire un petit enregistrement. Alors, le sujet du jour, c'est Mass Effect, la saga de jeux vidéo. Alors, c'est une saga qui est très importante pour moi. Par effet de conséquence assez importante aussi pour toi, j'ai l'impression.
Ah ouais, bah on aura l'occasion d'en reparler, mais ça c'est sûr.
Voilà, donc en fait, c'est une saga de jeux vidéo de science-fiction qu'on va, on va pas du tout se gêner pour spoiler, donc voilà, faites demi-tour si vous comptez faire le jeu et que vous n'avez pas envie d'être spoilé. Mais alors, la science-fiction, pour toi, qu'est-ce que c'est ? Quels sont tes premiers pas dans la science-fiction, Jonathan ?
Ouais, c'est vrai qu'avant d'attaquer Mass Effect, faut revenir un peu aux bases. Et moi, les bases, bah, c'est, je pense, comme beaucoup de personnes, ça a été à travers les films. J'ai deux sagas en tête, bon, bien sûr, la classique Star Wars, j'ai envie de dire, mais peut-être d'abord plus Alien. Alors, même si c'est un peu une saga horrifique, ça reste quand même une saga de science-fiction. Et je pense que c'est ce qui m'a marqué en premier. Et c'est ce qui m'a un peu, même beaucoup fasciné en fait, avec cette idée des vaisseaux dans l'espace, de découverte de nouvelles formes de vie, tout ce genre de choses. Là où Star Wars, finalement, j'ai découvert après, et j'y voyais plus un aspect, on va dire, héroïque, baston, ce genre de choses, mais le côté vraiment SF et la fascination pour la science-fiction, c'est venu plutôt avec Alien. Et après, ça s'est développé avec plein de films, plein de séries, avec l'univers étendu Star Wars, qui est génial, et avec Mass Effect, mais ça, on en reparlera après. Voilà.
Alors, là où je te rejoins totalement, c'est sur Star Wars. Moi aussi, c'était mon premier pied d'entrée dans la science-fiction. Et j'ai presque envie de dire le seul, parce que c'est vraiment une saga que j'ai commencé à regarder très tôt, aux alentours de 5-6 ans, et qui m'a hanté pendant des années. Je n'ai fait que regarder Star Wars pendant que j'étais jeune. J'ai raté tous les dessins animés Disney pour regarder Star Wars, des vieux enregistrements sur VHS enregistrés sur France 3 parce qu'ils étaient passés avec les
oui,
pubs
mais
au milieu.
Est-ce que t'as vu l'épisode spécial Noël de Star Wars ?
Et non. Je ne suis pas si vieux que ça.
Est-ce que tu peux vraiment dire que t'es un fan si t'as raté cet épisode ?
Non, mais je suis suffisamment vieux pour dire que les épisodes que je regardais, c'était les épisodes donc, qui étaient enregistrés sur cette fameuse cassette enregistrée par mes parents. C'était les épisodes 2 et 3. Mais à l'époque où il n'y avait pas de prélogie, donc c'était sont devenus les épisodes 5 et 6, pour te donner une idée de l'époque.
Ouais, alors moi pour le coup, je les ai découverts vraiment avec la prélogie, tu vois. Et j'ai notamment souvenir que le 3, alors je sais plus la date de sortie exacte, mais j'étais assez jeune encore, et lui je l'ai vraiment torché, j'ai vraiment vu beaucoup beaucoup de fois, parce que il y avait aussi ce côté peut-être un peu moins kitsch que dans les premiers, parce que moi je suis un peu plus jeune du coup, et il y avait vraiment aussi ce côté dans la prélogie où on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même un univers qui est présenté qui est vachement cool, quoi.
Ouais. Qui est beaucoup plus florissant, on voit un petit peu plus ce qui se passe dans la globalité du monde.
C'est ça, ouais. Et ça, ça m'avait beaucoup parlé. Mais d'ailleurs, c'est aussi... c'est un truc que je trouve vachement important dans la SF, c'est quoi, d'avoir accès à un univers en fait, qui soit riche, quoi. Après, il y a d'autres arguments dans l'univers qui sont importants, Et c'est notamment ce qui fait que Mass Effect marche aussi. Mais là, pour Star Wars, ce qui est vraiment important, je trouvais, c'est que bah, tu as une diversité d'aliens et tout, et d'interactions, de mondes. Et c'est vraiment très très cool. Et c'est d'ailleurs ce que moi j'ai un peu reproché en aparté au dernier Star Wars, où j'avais l'impression qu'on revenait sur les mêmes planètes, tu vois. Et alors qu'il y a tellement à explorer, quoi. Et suffit de voir à travers les jeux vidéo, alors toi t'en as peut-être fait plus que moi, je pense, mais à travers les différents jeux, il y a quand même pas mal de choses qui sont explorées, pas mal d'ambiances aussi différentes, et ça c'est quand même. Mais bon, là c'est déviation, j'ai envie de dire, donc.
Et oui, mais quelque part, l'ère de repos, c'est un petit peu une déviation. On dévide au sein même de la déviation. Mais
De la table de pique-nique, ouais.
exactement. Voilà, moi, c'est vrai que même si j'étais pendant un peu longtemps un détracteur de la prélogie, mais un petit peu par principe, plus que par raison. Parce que bah, j'avais baigné dans la trilogie originale. Au final, il faut se rendre à l'évidence, ça présente un univers beaucoup plus riche. Et ça, c'est vrai que ça, c'est très très intéressant. Et notamment, en fait, moi, il y a quelque chose. Alors, c'est personnel, mais il y a quelque chose dans Star Wars qui me touche assez peu. Et ben, c'est tout le côté fantasy. Un peu classique, le côté lutte entre le bien et le mal, tout ce qui concerne les Jedi, basiquement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce que j'aime, c'est les batailles de vaisseaux, tout ça, découvrir des nouveaux mondes, la découverte de choses incroyables. Et c'est pour ça, notamment, que Mass Effect est devenu un petit peu l'œuvre de science-fiction qui m'a le plus touché après Star Wars.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est pour moi un peu, et on y reviendra plus en détail après, mais pour moi c'est un peu la faiblesse de Star Wars, enfin l'une des faiblesses de Star Wars, ou de l'univers de Star Wars, on va dire, par rapport à celui de Mass Effect, c'est qu'il y a quand même cette volonté toujours un peu manichéenne, mais qui est assumée, tu vois, mais d'avoir vraiment les gentils Jedi et en face les Sith, quoi, et que tout tourne un peu autour de ça. Alors ça aussi, c'est avantage, parce que ça permet quand même d'avoir des, je trouve, des moments spectaculaires, des moments vraiment épiques, quoi, que. Enfin, qui sont vraiment vraiment forts, mais aussi ça met un peu de côté finalement la richesse de l'univers qui est présente, mais qui du coup sert plus de décor, quoi, que parfois que de vraiment être au centre de l'histoire, ce qui est pas le cas d'un Mass Effect. Enfin, en tout cas, je pense que sur ce coup-là, on sera d'accord tous les deux. Voilà. Et du coup, je pense que là, on a quand même bien vendu Mass Effect déjà, parce qu'on est parti de Star Wars et puis tout à l'heure, on fait ouais, mais alors c'est quand même moins bien que Mass Effect. Et du coup, on pourrait quand même peut-être dire bah, pourquoi Mass Effect c'est si unique? Alors, surtout pour toi, puisque toi, pour le coup, ça a un côté, je dirais presque vachement sentimental. Donc.
C'est vrai, c'est vrai. Bah déjà, au niveau de ma découverte de la saga, c'est un ami, Julien, que je salue, s'il m'écoute un jour, parce qu'il est occupé en ce moment. Mais Julien, donc, quand on était au lycée, qui me parlait de Mass Effect, que c'était incroyable et tout, et moi, il me saoulait. Complètement, j'étais là, genre ouais, mais ton jeu, bon, ça a l'air sympa, c'est de l'espace, mais c'est pas Star Wars, quoi. Et en fait, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il a pas arrêté de m'en parler, et des années plus tard, facilement 6-7 ans plus tard, j'ai eu un nouvel ordinateur, et je me suis dit, enfin, je pouvais avoir des jeux récent, alors qu'avant j'avais plutôt des jeux qui avaient quelques années, parce que mon ordi c'était pas non plus une bête de
Genre Adibou.
course. Exactement, genre Adibou. Et encore, je faisais tourner à 15 FPS. Blague à part, je découvre donc dans un rayon de la Fnac un coffret Mass Effect Trilogy pour 15 balles, avec Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, Mass Effect 1, il est sorti en 2007, Mass Effect 2, 2009, je crois, et Mass Effect 3, 2012. Voilà, donc. Bah je trouve donc, c'était aux alentours de 2015, je trouve ce coffret, je me dis, ah, c'est vrai qu'on m'en a beaucoup parlé, apparemment c'est vraiment cool. Pour 15 balles, j'ai la trilogie, Est-ce que je me laisserai pas tenter? Au pire, je perds pas beaucoup d'argent si ça m'intéresse pas. Donc je tente, j'installe le premier. Plutôt pas mal, mais je peine un petit peu à accrocher au début. Et puis à partir du tiers du jeu, là, en fait, dans les 2-3 semaines qui ont suivi, j'ai terminé la saga entièrement. D'un coup, comme ça, d'une traite. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus de souvenirs de cette époque. Il me semble que j'avais cours en parallèle, mais tout était obsédé dans ma tête par Mass Effect. Et ensuite, je suis devenu celui que j'avais juré de ne jamais être, c'est-à-dire Julien, l'équivalent de Julien, et j'ai commencé à parler à tous mes potes de Mass Effect, ça m'avait retourné le cerveau complètement. Et ce soir, j'ai la chance de discuter avec une de mes victimes.
Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, j'ai suivi un peu le même trajet parce que finalement, moi, j'ai mis du temps quand même à m'y mettre. Enfin, tu m'en as beaucoup parlé il y a 3 ans, et finalement, je m'y suis mis cette année, quoi. Et tu as, oui, bon, c'est bien, j'aime bien la SF et tout. En plus, moi, j'étais un joueur de console. Et ce qui m'a débloqué, c'est la sortie du coup de l'édition collector, là, avec bah, du coup tous les jeux et les DLC inclus sur PS4. Et là, je me suis dit, bon, allez, il m'en parle depuis longtemps, on va tenter. Et ce qui est fou, c'est que ça a fait comme toi, puisque je me suis retrouvé dans un effet tunnel où je pensais vivre et dormir Mass Effect. C'était une obsession. Et je les ai torchés, ouais, je pense. Bon, j'ai peut-être pas mis une semaine, j'ai peut-être mis 2 semaines, mais quand même, voilà, c'était du style, je me levais le matin, je pensais à Mass Effect, je me couchais, je pensais à Mass Effect. Et ça, je trouve que c'est une des rares œuvres. Où vraiment ça te fait ça, quoi. Et c'est obsédant, quoi. Je prends le mot, c'est obsédant, dans le bon sens du terme, mais obsédant.
C'est ouais. Et du coup, donc qu'est-ce qui a rendu pour toi cette saga aussi unique?
Ben, alors moi, je vais appuyer un truc. Alors c'est quelque chose qu'avait dit le joueur du grenier, il avait parlé de la saga Mass Effect dans une de ses vidéos qui s'appelle Les jeux qui m'ont marqué, je crois. C'est une série de vidéos que j'aime beaucoup. Et dedans, en fait, il avait dit que ce qui pour lui importait beaucoup dans Mass Effect, c'était la cohérence de l'univers. Et moi, c'est la chose la plus importante, et c'est la chose pour moi qui m'a le plus ébloui, ébahi, tout ce que tu veux, c'est que quand tu lances Mass Effect, tu te retrouves complètement immergé parce que tout est cohérent, tout ce qui se passe dans l'univers, c'est-à-dire toutes les interactions entre les personnages, ben, c'est totalement réaliste, quoi. Là où un Star Wars, ben, tout le monde est beau ou tout le monde est méchant, mais il n'y a pas une certaine réalité des choses, quoi, que nous on peut connaître. Mass Effect, c'est totalement plausible, totalement réel. Il y a des mecs qui sont cons, il y en a qui sont cons mais attachants, il y en a qui sont racistes, il y en a qui. Enfin, il y a tout. Et ça, moi, ça m'avait foutu une claque parce que tu prends du plaisir à parler avec n'importe qui, tu vois. C'est-à-dire tu peux te balader, parler avec des aliens, écouter les discussions, et tout est intéressant parce que t'es vraiment dans un monde qui est vivant, cohérent. Et je crois que ça, c'est le premier truc qui m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà.
Ouais, c'est vrai que là, pour souligner ce que tu dis, c'est vrai que c'est un monde où, dès qu'on quitte un lieu, on a l'impression que ce lieu vit encore. À l'inverse de Star Wars, où pendant la trilogie, j'ai beau adorer la trilogie, mais qu'est-ce qui se passe dans l'univers à part l'histoire de Luke Skywalker, quoi?
Non,
Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose.
c'est totalement ça, quoi. Non, et puis. Dans Star Wars, tout le monde s'aime un peu, quoi. Je veux dire, il y a les bandits et tout, mais sinon, t'as pas l'impression qu'il y ait vraiment d'enjeux de société et tout. Enfin, dans l'univers étendu, c'est différent, hein. Là, je parle vraiment de ce qui est présenté dans les films, parce qu'encore une fois, je connais pas assez bien l'univers étendu, je pense que c'est beaucoup plus varié. Mais là, Mass Effect réussit le tour de force de ce que tu disais, c'est que t'arrives dans n'importe quelle zone, et puis t'as une politique qui est différente, t'as des dialogues différents, enfin. Enfin, je trouve ça juste trop fort, quoi, parce que je pense pas que ce soit si évident que ça d'arriver déjà à se détacher un peu de la SF classique que Star Wars a mis en place et d'arriver à reproduire des, bah, comme tu disais, des mondes qui sont vivants, quoi.
J'y pense maintenant, mais en fait, c'est très bien vu de notre part de parler de Star Wars.
Mais parce qu'on est trop fort.
Exactement, on est trop fort. C'est que, en fait, pour aller un petit peu dans les descriptions techniques, BioWare, le studio qui a fait Mass Effect avant, avait fait un jeu qui s'appelait Knight of the Old Republic, Star Wars Knight of the Old Republic, qu'on appelle communément KOTOR, qui est donc un jeu qui se passe dans l'univers de Star Wars, mais pendant une ère qui se passe des milliers d'années avant ce qu'on découvre dans les films. Néanmoins, ils ont voulu à un moment s'émanciper de l'univers de Star Wars pour créer leur propre univers qui s'avère être Mass Effect et qu'ils ont, je sais pas s'ils ont appris des erreurs de Star Wars, mais en tout cas ils l'ont pensé de manière cohérente, intégralement. Et d'un point de vue comme ce que tu disais, politique, sociétal, voilà, y a vraiment, c'est un univers où on arrive, même si nos actions n'ont pas tout le temps des impacts énormes, on sait qu'il y a une géopolitique installée dans cet univers qui...
Qui vit, ouais, tout simplement. Non, c'est... Alors, pour la description, parce que les gens n'ont que l'audio, mais pour la description, le moment où Victor a terminé sa phrase, il agitait les bras, ce qui signifiait beaucoup et pas grand-chose. Mais qui, je pense, était une bonne conclusion, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que finalement, moi, je crache pas non plus sur Star Wars, parce que je pense pas non plus tout connaître, et loin de là, de l'univers étendu. Mais là, je parle plus des films, des choses grand public. Et le potentiel, il est là, quoi. Petit aparté, c'est que complètement, enfin, c'est totalement possible de créer un truc de malade avec l'univers qu'ils ont de Star Wars, quoi.
Bah, c'est ça, et Star Wars, c'est vrai que c'est un univers qui s'est construit avec les films. George Lucas, au départ, il pensait que ça allait être un bide complet, son film, et c'est pour ça il a fait les premiers épisodes comme s'il pouvait s'arrêter, comme si la saga pouvait s'arrêter. Et de plus en plus, il a eu envie de développer cet univers, d'aller plus profondément, proposer des choses plus profondes, et c'est, on le voit bien dans la prélogie, où justement il y a tout un rattrapage au niveau politique.
Ouais, complètement. C'était déviation, voilà.
C'est ça.
On y revient toujours, on peut pas y échapper, tu
Toujours. On est lié.
vois.
C'est dans notre ADN. Mais là aussi, où ce que je voulais ajouter, pour moi personnellement, en tout cas, ce qui a rendu cette saga unique, c'est qu'elle m'a fait. Alors, j'étais quelqu'un de déjà intéressé par tout ce qui est espace, tout ça. Mais là, Mass Effect, ça m'a vraiment provoqué un déclic dans mon cerveau. Et je me suis dit, ah ouais, la galaxie est énorme. Genre, les ordres de grandeur dans l'espace, dans notre galaxie uniquement, c'est juste une dinguerie, en fait.
Ah, mais
Et...
on peut pas les. En fait, on peut même pas les imaginer, quoi.
C'est ça.
C'est comme l'histoire, t'sais, des nombres, tout ce qui est. Enfin, je sais plus quel est le nombre exact, mais il y a un nombre à partir duquel on peut même plus visualiser mentalement. Même si on te dit 1 million, par exemple, bon là c'est beaucoup plus, mais 1 million c'est impossible à visualiser, 1 milliard n'en parlons pas, tu vois. Et donc là, quand on parle, comme tu dis, de la galaxie, où on parle justement dans ces ordres de grandeur-là. Nous on voit ça sur notre petite carte de géo ou sur nos petits livres de troisième, mais on n'a aucune idée finalement de ce que c'est dans la réalité, quoi. Et c'est vrai que ça fait fantasmer à mort, quoi.
Bah moi, j'avais besoin de me tourner vers des explications un petit peu pour enfants, pour, enfin, pas vraiment, mais pour avoir ça. Et puis l'explication, c'était que je sais plus combien de milliards de soleils il y a dans notre galaxie, mais que au-delà de ça, il y a aussi je sais plus combien de galaxies. En fait, l'explication que j'avais vue, c'est que si tu prends un grain de sable entre ton index et ton pouce, que tu tends ton bras, et ben derrière ce grain de sable, il y a je sais plus 30 000 galaxies. Si tu dans ton champ dans le champ de vision, ce qui est bloqué par le grain de sable, et t'es là, tu te dis, mais quoi? What?
Mais c'est ça, mais je dirais même presque une. Enfin, tout ça, ça rapproche même de l'ordre de l'infini, quoi, parce qu'on a finalement, on peut même pas mentalement appréhender tout ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, déjà, on a du mal à appréhender notre système solaire, alors appréhender d'autres galaxies et appréhender des dizaines de milliers d'autres galaxies, enfin, finalement, là, on est dans un domaine où juste on peut que se griller le cerveau, quoi. Enfin,
C'est clair.
moi j'essaye de pas trop y penser parce autant je trouve. Enfin, déjà, je trouve que. Tu sais, c'est comme quand on te dit des fois, tu sais, t'as des nouvelles, leur futura science et tout, ils te disent oui, on a découvert une planète habitable dans un autre système solaire, et tu dis waouh, c'est trop stylé, mais en fait, tu sais, il faut minimum 3 000 ans avec les moyens actuels pour y arriver. Enfin, tu dis. C'est des choses, en fait, qu'on a du mal à appréhender, et j'avoue que moi, pour ça, j'essaie un peu de. Enfin, moi, ça me donne mal à la tête vraiment quand j'y pense aussi. Parce que j'essaye de. En fait, j'essaye de le visualiser, c'est quelque chose que je ne peux pas visualiser. Donc, bon.
Incroyable. Et donc, ce qui m'a rendu cet effet dans Mass Effect, c'est vraiment que, en fait, tu te déplaces de petite zone de la galaxie en petite zone de la galaxie grâce au relais qui t'envoie d'un point A à un point B. Mais en fait, tout autour de ces relais, il y a des milliards de kilomètres, des années-lumière qui sont inexplorées. Et en fait, juste les zones qui sont connues, alors que la galaxie est explorée depuis des milliers d'années, eh ben, en fait, on n'en connaît pas 1 ou 2%. Et ça, moi, j'aime bien ça. Et ce que j'aime bien aussi dans Mass Effect, c'est le fait que ça se base complètement, en fait, sur notre histoire actuelle. On a l'évolution humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Et ensuite, ils ont rajouté une couche de 200 ans, il me semble, à peu près, où
D'accord.
il se passe des événements. Mais en fait, à la base, les humains, dans l'univers de Mass Effect, tu reviens 200 ans en arrière, chez les humains, bah, c'est chez nous, quoi.
Bah des plots quoi.
Exactement.
Parce que non mais petit aparté mais sur un plan peut-être enfin juste une réflexion en passant comme ça mais t'as pas un peu l'impression quand même qu'en notre génération on est un peu les plots de l'histoire puisque on est pile au début du boom technologique, enfin en tout cas dans un boom technologique de malade, notamment au niveau de l'espace. Mais finalement, nous, on vivra pas les grandes épopées, tu vois. C'est-à-dire que on est juste un peu les. Tu vois, il y aura un trou dans le. Il y aura toute la période avant où bah c'était un peu les débuts, machin et tout. Et nous, on est là où ça s'est développé. Mais qui se souviendra de nous finalement, tu vois?
C'est ça. Genre, la génération de nos parents, ils ont connu l'homme sur la Lune. Nous, ça se trouve, on connaîtra jamais l'homme sur Mars. Et on va être juste entre les deux,
C'est
quoi.
ça, voilà. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu l'histoire de notre vie, Victor?
Toujours être dans le monde de vide. En fait, on est le Blitz de l'histoire humaine.
Exactement. Voilà, bah écoute, c'était mon aparté, ma réflexion du soir. Mais en tout cas, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as relevé pour Mass Effect et globalement, enfin, c'est. Aussi quelque chose qui m'avait pas mal marqué, c'est que c'est un peu ce que tu as dit, c'est qu'on a une infinité devant nous, enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Mais ils ont en plus réussi à faire que ce soit pas du tout redondant, quoi. Enfin, je veux dire, tu as vraiment cette sensation à chaque fois quand tu te balades dans Mass Effect, même quand tu prends le temps de farmer des planètes, tu sais, pour récupérer les ressources, de t'intéresser à ce qu'il y a écrit, de lire et tout, bah, tu t'aperçois qu'à chaque fois, quand même, il y a des spécificités et tout sur les planètes et tout. Et mine de rien, ça peut paraître anodin parce que je pense que 90% des gens passent dessus rapidement, tu vois. Mais quand tu prends le temps, il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'univers, tu vois. Avec des colons sont venus ici, il y a eu des bases commerciales, il y a eu une révolution, c'est des. Enfin, et ça, je trouve que c'est vachement fort, tu vois, d'avoir réussi dans cette immensité qu'ils ont créée à donner un truc où t'es pas
Un
redondant,
truc
quoi, je
vivant,
trouve.
un truc crédible, encore une fois. Et
Bah, en fait, c'est que pour moi, le gameplay, notamment avec les planètes, peut être redondant, ça c'est sûr, mais l'univers ne l'est pas, quoi. C'est ça que.
c'est ça. Pour moi, clairement, en fait, l'histoire est bien supérieure au gameplay. Et c'est pour moi, par exemple, Mass Effect 1, typiquement, j'ai été porté par l'histoire, pas par le gameplay. Les phases de jeu, en fait, n'étaient que des interruptions dans les moments narratifs qui m'intéressaient, de savoir ce qui allait se passer, tout ça. C'était ce qui me motivait, mon avancée dans l'histoire, c'était ça.
Bah, je suis assez d'accord, surtout pour le 1 où le gameplay était. Enfin, moi je l'ai vécu après patch, donc beaucoup moins horrible. Mais j'avais fait le 1 sur PC aussi pour le coup, et c'est vrai que c'était quand même assez laborieux. Et il faut aussi dire que le gameplay global est pas forcément. Enfin, c'est pas le point fort du jeu, quoi, pour moi, clairement. Mais après, c'est un peu comme un The Witcher, tu vois, que j'ai fini aussi récemment, parce que je suis quelqu'un qui fait le jeu 10 ans après. Mais c'est pareil, The Witcher, pour moi, c'est pas le gameplay qui fait sa force, quoi. Et finalement, je peux dire ça pour les jeux qui m'ont le plus marqué. Last of Us, c'est pareil, le gameplay, c'est pas sa force. Donc finalement, moi, dans les jeux, c'est plus l'univers qui ressort, quoi. Tant que le gameplay est pas non plus
C'est
catastrophique.
ça. Mais tu vois, typiquement, je connaissais quelqu'un un jour qui m'a dit, qui m'a, je lui ai parlé de Mass Effect et il m'a dit, Ah, j'ai fait le 3, c'était chiant, je me suis emmerdé et tout. Parce que c'était quelqu'un déjà qui prenait le jeu au niveau du 3 et qui lui cherchait un Gears of War en fait. Il cherchait un jeu à gameplay. Et du coup, bah ça parlait beaucoup. Alors qu'il en avait rien à foutre, lui il voulait taper des monstres. Alors, le 3 c'est certainement moins pire de la trilogie au niveau du gameplay, c'est là où le gameplay est le plus abouti et le plus fun selon moi. Mais c'est vrai que si tu viens pour le gameplay, ben c'est sûr que tu vas pas être forcément jouasse quoi.
Bah, en tout cas, si tu viens que pour ça,
Oui
quoi,
oui
c'est
c'est ça.
sûr.
Après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui venaient pour le gameplay en fait qui se sont fait attraper par l'histoire et qui sont restés accrochés à la saga par rapport à l'histoire.
Ah oui, complètement. Bah, de toute manière, je pense que si t'es pas accroché par la saga, je pense que Mass Effect, c'est quand même une œuvre qui est assez clivante. Enfin, ça fait un peu édito de iTélé qui dit ça, tu vois, mais en vrai. En vrai, pour le coup, enfin, c'est soit vraiment t'adhères à fond dans le truc et t'es, je te dis comme un peu nous, t'es dans un effet tunnel, tu penses vie Mass Effect, et d'ailleurs ça se voit assez facilement parce que même sur les forums, que ce soit jeuxvideo.com ou autre, enfin les mecs qui en parlent, ils sont passionnés quoi. J'ai rarement parlé à quelqu'un qui a fait Mass Effect et qui soit pas passionné, tu vois. Genre, j'ai truc tout con, mais enfin, je connais des gens, même pas de très proches, mais dès que je leur parle de Mass Effect, ils me disent oh ouais, j'ai un pote, ben, il a acheté les livres et tout, enfin. Ça paraît bizarre pour les gens qui l'ont pas fait, mais quand t'es dans Mass Effect, bah, t'as un peu ce côté obsessionnel. Ou alors juste t'accroches pas du tout, et dans ce cas-là, c'est vraiment t'accroches pas, quoi. Puisque le gameplay est pas incroyable, c'est pas non plus un très bon jeu d'action. Enfin, je veux dire, notamment, je veux dire, les boss sont pas. Enfin.
Oui.
Sont pas incroyables. Enfin, je veux dire, en termes de jeu, il y a plein de choses qui sont critiquables, quoi. Donc si t'es pas vraiment happé par le truc, bah, forcément tu seras pas autant dedans, quoi.
Complètement, complètement.
Bonjour, je suis Pascal Pro. Bienvenue sur ce podcast où nous allons parler.
Elle est là. Ouais, non, non, ça va quand même. Ne te compare pas à Pascal Pro. Respecte-toi, enfin.
Non, mais c'était juste pour le caler dans le titre, comme ça après on peut attirer des gens, tu vois.
Exactement, on va pouvoir attirer.
Les
En
auditeurs
plus, je suis
de.
sûr que tu as très envie d'interagir avec les gens qu'on va attirer.
On vous salue
En
d'ailleurs
tout
à ce
cas, moi
mec.
j'ai hâte. Voilà.
N'hésitez pas à venir sur le Discord. Alors. Bah écoute, je sais plus où on en était, puisqu'à force de diverger et de faire des déviations.
Moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est parler un petit peu de l'écriture du jeu, qui donc propose des péripéties, une quête quand même assez épique, avec quand même beaucoup d'émotions.
Ouais, alors moi j'aimerais peut-être plutôt parler de la direction artistique en globalité que l'écriture, parce que notamment pour l'émotion, je pense que c'est plus approprié. Parce que pour moi, alors enfin, je vais essayer d'avoir un avis objectif, même si c'est un peu dur quand on parle d'une saga comme ça, mais par exemple, dans le 3, je trouve qu'il y a une DA qui est très assumée, de on va te faire chialer, tu vois, que ce soit au niveau de la musique, qui est extraordinaire, je dis pas, mais que ce soit au niveau des décors, beaucoup de choses, même un peu de l'écriture. Mais moi je pense surtout à la musique où il y a vraiment des moments où on te dit là il faut que tu pleures, tu vois. Et moi ça a marché, j'ai chialé, hein, mais
Moi
c'est
aussi.
pas, je critique pas l'effet sur moi, mais je critique peut-être le manque de finesse sur le 3 que pour le coup il n'y a pas dans le 2, il n'y a pas dans le 1 non plus. Je trouve que le 3 pour ça est peut-être un poil en dessous, même si pour moi ça a très bien marché, et je trouve que pour moi c'était une belle conclusion parce qu'il fallait l'émotion à ce moment-là. Mais objectivement, je trouvais ça un peu moins fin que dans le 2. Ou dans le 2, en fait, t'es retourné, mais c'est tellement bien fait que tu t'y attends pas, quoi. Je trouve que là où l'écriture est magistrale, c'est que. Je vais essayer de pas spoiler, parce que même si on a dit qu'on est spoilé, je trouve que le 2 est celui qui retourne le plus sur bien des aspects. Notamment là. Enfin, bon, bref, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas trop expliciter ce que c'est, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des passages qui vraiment sont très très bien écrits. Et tout s'enchaîne tellement vite que t'as pas forcément le temps d'appréhender, tu vois. Là où le 3, il est. Comme je dis, j'ai chialé, il y a des moments très très forts. Bon, tu sais très bien qu'il y a des moments qui m'ont beaucoup
Oui.
marqué, où je t'envoyais des messages. Victor, t'en peux plus. Mentalement, j'étais à bout. Et je trouve qu'il est extraordinaire. Mais pour moi, je m'y attendais. Sur, y a, les moments où je savais qu'il y avait de l'émotion, bah, je trouvais que c'était plus prévisible. Là où le 2, enfin, juste tu te prenais une baffe, quoi. Mais le 1, je trouve qu'il réussit un petit peu aussi ce qu'a fait le 2. Là, bon, je vais spoiler parce que bon, faut pas déconner, mais non, non, mais le choix sur. Enfin, je trouve que les choix dans le 1, il y a des choix avec des grosses conséquences. Dans le 1, notamment, si je me trompe pas, t'as la reine Rachni ou c'est le 2, la reine Rachni?
C'est dans le 1.
Le 1, voilà. Mais par exemple, ce genre de choix qui moi, m'ont beaucoup marqué et qui, quand même, font véhiculer les émotions parce que derrière, t'as quand même toute une. Enfin, c'est des choses qui sont quand même lourdes de conséquences, même d'un point de vue de morale, tu vois, dans tes choix. Finalement, c'est. Tu peux condamner une espèce, ce genre de choses. Et ça, je trouvais que c'était très bien amené dans le 1 et le 2, avec des choix comme ça qui, je trouve, la force, c'est que ça popait de nulle part, mais ça venait pas de nulle part non plus, dans le sens où tu disais pas ça sort du chapeau, tu vois. C'est juste qu'il le sort. Il te disait pas à base de violon avant, bah, tu vas chialer. C'est juste qu'il disait, bon, bah, t'as ce choix à faire. C'est cohérent avec ce qu'on t'a présenté avant, maintenant, démerde-toi. Va chialer tout seul, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vachement fort, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Franchement, moi je suis un gros. Enfin, je suis sensible. Donc, les jeux qui me font. Moi, je dis les jeux qui mettent le violon, je vais chialer et ça va me plaire. Mais des jeux comme ça qui te disent. Qui te préparent pas et qui juste sont forts, je trouve ça que c'est une grande prouesse, quoi. Voilà.
C'est-à-dire que c'est ce que j'ai l'impression, c'est que ce que tu voulais dire, c'était que le jeu te prenait au dépourvu par moment.
Oui, voilà. Ben, merci d'avoir résumé ce que j'ai dit il y a un quart d'heure. T'aurais pu le dire directement. T'aurais pu faire hey! « Parce que c'est vrai que là, je suis sur un rond-point depuis tout à l'heure et j'essaie de trouver le mot, mais
Non
c'est
mais
pas grave.
non.
Mais c'est parce qu'il y avait un panneau déviation et il y en a un autre panneau déviation et un autre panneau déviation et voilà, j'étais...
Le cycle perpétuel.
Exactement.
Mais c'est intéressant que tu parles des choix parce que c'est vrai qu'on n'a pas explicité ça pour le moment, mais c'est vrai que c'est une saga qui est basée sur les choix qu'on va faire, qui vont avoir une importance. Et si on fait la trilogie, on pourra importer ces choix du 1 au 2 et du 2 au 3. Et du coup, dans Mass Effect 3, pouvoir avoir les conséquences d'un choix qu'on a fait dans Mass Effect 1. Et ça, c'est très très important parce que ça crée. Il y a tellement d'embranchements possibles que chacun est maître de sa propre histoire et chacun aura eu une saga Mass Effect différente. Parce qu'il y a tellement d'embranchements et l'arbre est tellement immense que personne ne peut avoir exactement les mêmes conclusions de toutes les petites intrigues qu'un autre joueur en fait.
Mais après, là où. Enfin, du coup, petit aparté, c'est que je pense aussi que cette diversité, cette richesse a contribué à un petit peu la déception aussi des gens sur la fin, puisque la fin se resserre vachement quand même. Je veux dire, si t'es dans un jeu ou dans une trilogie, on va te présenter une myriade de choix et tu sais que ton aventure est unique parce qu'elle est unique, puisque même si tu peux avoir fait des choix que 80% des joueurs ont fait, il y a toujours des micro-choix, des micro-discussions. Et qui ont leur importance dans leurs relations, notamment, ne serait-ce que prendre le temps de parler, je sais pas, moi, ton maître de bord a dragué, comment s'appelait Kelly, je sais plus,
Oui.
enfin, ce genre de choses. Non, mais c'est tout bête, mais je veux dire, il y a une myriade de choix qui fait que ton aventure sera toujours unique, même si tu t'es dans tes choix, parce que je sais que, je fais une aparté dans l'aparté, mais le compte Twitter Mass Effect avait partagé les stats, en fait, des choix des principaux, on va dire, notamment la reine Rachni, Vrex, tout ça, enfin, plein de choix. Et finalement, bah, il y avait quand même des moments où ça se démarquait, t'avais genre 90% des gens qui prenaient quelque chose, tu vois. Il y a des moments où c'était beaucoup plus varié, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est même si ces choix importants, tu les as fait, t'es dans les 90%, bah, il y en a tellement d'autres à côté des petits, des grands, que ton aventure est unique. Et là où ça se resserre vraiment beaucoup, c'est sur la fin, quoi, où t'as quand même beaucoup moins de choix. Alors, je crois que c'était encore pire au début, de ce que tu m'avais dit, avant qu'ils aient. Parce qu'ils en ont rajouté après, non,
Oui,
des
au
fins.
départ il n'y avait que trois fins, ensuite ils en ont rajouté une quatrième avec une conclusion beaucoup plus riche que ce qui était proposé
Parce que
avant.
c'est un peu. Après, moi, honnêtement, j'ai pas la solution, mais c'est vrai que quand on t'offre une aventure où t'as vraiment l'impression que t'es dans quelque chose que toi tu crées finalement, avec l'univers, et qu'on t'impose finalement une fin un peu brutalement en te disant bah c'est la fin comme ça, cinématique, bisous, on prend pas forcément en compte ton individualité, je sais pas comment
Ouais.
c'est. Le fait que c'est ton aventure, quoi.
Oui. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que chacun avait créé, avait sa vision de ce que pourrait être la fin et voulait savoir ce qui se passait avec tous ses coéquipiers, tous ces personnages, toutes ces planètes. Et en fait, une conclusion d'un jeu comme ça ne pouvait que décevoir.
Ah
Tu
oui, non, ça c'est sûr.
peux pas mettre en place un truc comme ça et en fait, juste techniquement, c'est pas possible de contenter tout le monde. Surtout sur quelque chose comme ça où les gens sont si passionnés en fait.
Complètement. Mais je sais pas, en fait, j'étais en train de réfléchir à ce qu'il y a une bonne solution, et c'est vrai que je n'en vois pas de terminer ce genre de saga. Après, enfin, non, honnêtement, je sais pas. C'est vrai que. C'est vrai que de toute manière, il y aura toujours des gens déçus, mais en même temps, comment ne pas l'être quand on t'offre. Enfin, en fait, on t'offre vraiment tellement, et à la fin, on te reprend tout, quoi. Mais bon, ça reste une aventure énorme. Hein, je veux dire, si jamais des gens l'ont pas fait et nous écoutent, parce qu'ils se sont perdus et ils arrivent ici, faites-les, franchement. Je pense que c'est vrai que depuis le début, on est quand même tous les deux on est vachement positifs et tout, mais c'est pas du tout exagéré. Je pense que Mass Effect, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Alors bien sûr, il faut prendre. Enfin, je veux dire, faut pas se forcer à le faire, parce que clairement, il faut un peu se bouger le cul au début pour le 1, pour le gameplay, comme on l'a dit. Mais faites-le, vivez-le. Et voilà, c'est une aventure unique. Voilà, c'est une aparté dans l'aparté dans l'aparté, mais je pense que c'était quand même bien qu'on le dise, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses positives, mais finalement, on n'a pas dit le principal, c'est que bah, ça vaut le coup.
Surtout bah maintenant avec l'édition Legendary qui réunit les trois jeux plus tous leurs DLC pour le prix d'un, alors qu'avant il fallait acheter les jeux individuellement et ensuite payer les DLC plein pot et Dieu sait qu'il y en a. Donc là c'est vraiment l'opportunité pour le faire dans les meilleures conditions en fait.
Ah ouais, complètement. Mais moi, je te dis, j'ai eu la chance du coup de le faire avec tous les DLC directement. Et c'est génial parce que finalement, t'as même pas trop conscience que ce sont des DLC et tu vas plus les faire selon une certaine logique de l'univers, j'ai envie de dire, une cohérence dans l'univers. Et ça va s'intégrer tout seul dans l'aventure, quoi. Je pense notamment, enfin, c'est un truc tout bête, mais je me permets d'en parler maintenant. Je sais pas si peut-être on en reparlera plus tard aussi quand on parlera des moments du jeu, mais il y a un DLC où toi et moi, je sais qu'on a des avis qui sont vachement divergents, tu vois. J'ai oublié son nom, si tu peux me rappeler.
C'est Suprématie.
Suprématie, voilà, exactement. Moi, c'est le DLC. Quand je l'ai fait, j'ai envoyé un message à Victor. J'ai fait putain, mais c'est trop bien, j'adore son moment et tout. Et Victor m'a fait bah. Ouais, enfin bof quoi. Et du coup, moi je dis, mais non, c'est trop bien, tu vois. Mais c'est peut-être aussi parce que moi, je savais même pas que c'était un DLC quand je l'ai fait. En fait, moi, si tu veux, pour moi, je trouvais ça tellement fou dans l'univers et je trouvais que ça développait quelque chose de malade que pour moi, c'était l'histoire principale en fait. Enfin, c'était un embranchement principal et j'avais pas du tout conscience que c'était un DLC. C'est-à-dire que. Du coup, rapidement, dans ce DLC, j'ai pas envie de spoiler parce que je pense que la fin est vachement importante. Mais moi, il y a des passages qui m'ont vachement marqué où tu marches dans un vaisseau guette, donc des êtres synthétiques, et abandonné. Et du coup, enfin, t'es dans un truc vachement sombre, assez lugubre, un peu à la Dead Space, Alien, ce que vous voulez. Tu marches comme ça, et d'un coup, t'as des haut-parleurs qui s'allument avec une radio humaine qui se lance, quoi, et une radio qui joue une musique un peu western, tranquille, enfin, un peu d'ascenseur, quoi, tu vois. Et toi, tu marches comme ça dans un truc où t'as des êtres synthétiques qui sont démembrés, qui pendent du plafond et tout. Et toi, tu marches dans un vaisseau sombre avec des lumières qui clignotent et t'as une musique comme ça. Ça fait vraiment jeu d'horreur. Et je trouvais ça incroyable, quoi. Je trouvais ça incroyable de. Parce que juste avant, t'étais dans une base désaffectée. Enfin, il mélangeait les univers. Quand t'étais dehors, t'es dans un truc très éclairé avec des sortes de. Enfin, une faune vraiment que je vous invite à ne pas écraser.
De toute façon, ton vaisseau te dira qu'il faut pas l'écraser
Oui,
et que
c'est
tu es
vrai.
un horrible personnage si tu le
Mais
fais.
non, mais quand tu y penses, tu es dans un truc très riche, très, très joyeux, enfin, tu vois de la faune, c'est mignon et tout, et tu rentres dans ça, et puis tu es vraiment dans un truc bam, film d'horreur, et moi je trouvais ça incroyable. Autre exemple, et après j'arrête peut-être de parler de ça, parce que je pense qu'on y reviendra plus tard, mais tout ce qui est lié au Léviathan. Moi c'est pareil, vu que j'ai la chance de pas m'être dit ok je le fais après la fin de l'histoire, pour moi c'était une poursuite logique, tu vois, dans ma progression de la découverte et tout. Et ça s'intégrait parfaitement au truc principal, d'autant plus l'histoire du DLC, quoi. Mais je trouve que c'est une vraie chance, du coup, d'avoir accès à ce pack sans faire la promotion. Hein. On n'est pas payé, de toute façon.
Waouh, si seulement.
Si seulement, voilà. Mais vraiment, moi, je suis très content de l'avoir découvert avec ce pack-là, avec tous les DLC intégrés. Et voilà.
Surtout que maintenant, j'imagine que ça peut se trouver éventuellement en solde de temps en temps pour. Il y a moyen, je pense, de pas le payer plein pot, quoi.
Ben, si je me trompe pas, alors au moment où on enregistre ce podcast, on est le 12 décembre, il y a quelques jours, j'ai vu passer une offre, je crois que c'était une vingtaine d'euros pour l'offre justement d'anthologie de Mass Effect. Alors, à revérifier, mais je crois que j'ai vu passer ça.
Donc oui, ça se trouve de manière.
Donc voilà, ben après, c'est peut-être à l'occasion justement des fêtes et tout qui font des fois des trucs bradés rapidement, quoi. Mais je suis quasiment sûr que vous pouvez vous débrouiller pour le trouver, donc plus d'hésitation. Voilà.
C'est en effet. Alors, je tiens juste à préciser un truc. Le DLC Suprématie, je trouve très bien. C'est juste qu'il y a quelques petits trucs qui me chagrinent. Mais en effet, le sujet et les thèmes abordés par le DLC sont vraiment passionnants. C'est juste plutôt sur des. Comment? Alors, peut-être que c'est des trucs qui ont été corrigés. J'ai pas refait enfin, cette séquence de jeu dans la nouvelle version, dans la version. Remasterisé, mais c'est vrai que moi il y avait des trucs qui me gênaient, qui me faisaient un peu sortir dedans par rapport, enfin qui me faisaient un petit peu sortir du jeu par rapport à la musique qui revenait en boucle à chaque fois qu'il y avait un combat et qui était de manière un peu artificielle ou des choses comme ça, mais c'était des détails et globalement moi j'ai trouvé ça très très bien. C'est juste
Ouais,
que
rattrape-toi, rattrape-toi.
j'ai trouvé que d'autres séquences du jeu étaient mieux, étaient plus passionnantes.
Ah ouais, mais moi je te dis, moi c'est, je pense vraiment c'est parce que je l'ai vu plus comme faisant partie de l'histoire du jeu, et donc j'ai pas eu, parce que c'est aussi le truc, c'est quand toi tu lances un DLC en sachant que c'est un DLC, t'attends quand même à ce qu'il t'apporte quelque chose de fort, de différent. Alors que finalement, quand tu fais juste ton histoire, bah tu prends ce qui vient, tu vois. Et je veux dire, j'ai fait des DLC qui ont pu me décevoir. Enfin, c'est ça, c'est que finalement, je prends un peu comme ça vient, et je trouve ça bien, justement, d'avoir une aventure globale plutôt que hachée. Voilà. Mais de toute façon, on y reviendra, je pense, un peu plus tard, quand on parlera de ce qui nous a marqué, tout ça. Mais déjà, parce que moi, j'ai beaucoup blablaté, enfin, j'ai beaucoup fait de tour, hein, finalement, pour tout ce qui était émotion, enfin, en tout cas, direction artistique. Je t'ai dit un peu, moi, ce qui. Enfin, les pour et les contre, mais toi, du coup, t'en penses quoi?
Alors oui, c'est vrai que moi c'est vraiment ça fait mouche hein, pour moi comme tu le disais pareil, j'ai chialé. J'ai chialé un petit peu à la fin de la trilogie, certainement un petit peu d'épuisement parce que il devait être peut-être 6h du matin parce que je voulais pas lâcher le jeu et que je me disais non, je veux le terminer, je veux pas m'arrêter avant de terminer. Certainement un peu bah, de l'émotion que procure la fin, mais aussi bah, de cette sensation qui a dû t'arriver aussi de quand tu arrêtes une série. Que tu as regardé, que tu as binge-watché et tout, que tu t'es attaché au personnage et que tout s'arrête, t'as un peu l'impression d'avoir perdu des potes, quoi. Et ça, je trouve que c'est la force de Mass Effect, c'est que c'est tes coéquipiers, tes compagnons que t'as dans ton vaisseau, bah à la fin, c'est des potes. C'est pas donné à tous les jeux de réussir. C'est pour ça que je parlais d'écriture notamment, mais c'est pas donné à tous les jeux de pouvoir proposer des personnages écrit comme Garrus, par exemple. Garrus où
Comme Jacob.
Bon, alors Jacob, c'est autre chose. Même si je trouve que le personnage en lui-même est intéressant, mais c'est juste que c'est un humain et dans Mass Effect, les humains sont toujours moins passionnants à suivre
Non,
que des aliens.
le petit aparté, le pire est, c'est vraiment d'assez loin, c'est Zaïd, quoi. Honnêtement, je veux dire, je pense sincèrement. En plus, c'est un DLC, Zaïd, non, je crois.
Oui.
Oui, voilà. Je pense sincèrement que si j'avais, il y a un personnage nul, mais vraiment nul, c'est Zaïd, quoi. Je veux dire, les autres, même, alors son nom m'échappe, mais la voleuse
Kazumi.
Kazumi, qui est pas trop développée, mais je trouve qu'elle est vachement intéressante. Son histoire d'amour est vachement intéressante. La quête qui est liée est vachement cool. Le personnage est vachement marrant, maintenant, quand tu la vois apparaître, parce que tu sais, elle pop de son invisibilité. Enfin, ça fait des scènes qui sont vachement atypiques et cool. Mais Zaïd, sans déconner, quand tu le croises, il est là, les bras croisés, il fait oui, bonjour. Je suis Sylvester Stallone version Mass Effect. Moi, je pète tout.
C'est clair, mais bon, c'est la majorité, enfin 95% des personnages sont passionnants, même si on les aime pas trop. Et Zaid, c'est vrai qu'en fait, c'est pas qu'il est nul, parce que ça pourrait être un personnage cool d'un jeu, mais c'est juste que le niveau est tellement haut à côté que ce personnage-là, il est juste transparent, en fait.
Bah, c'est un peu comme en fait, c'est vrai que les personnages eux-mêmes, même Kaidan, enfin Ashley, enfin c'est des persos qui en soi, je veux dire, sont pas nazes. Ah, c'est pas vrai parce qu'ils ont quand même des moyens de creuser des choses et tout, mais quand tu compares avec des persos, mais comme tu évoquais Garrus, mais même Vrex, Tahn, enfin je veux dire, c'est des persos, Mordine bien sûr, le seul, le GOAT, enfin je veux dire, c'est des persos qui, je trouve, ils sont carrément plus humains que les humains, parce que les humains sont un peu fades en fait. Moi, c'est un peu ce que je reproche, c'est qu'ils sont un peu plats quoi. Là où, enfin je sais pas, tu sais, tu rentres dans le labo de Mordine, il est en train de chanter, où il te parle, qu'il veut aller étudier les coquillages, enfin c'est des trucs tout cons tu vois, mais c'est des trucs qui ont du sens. Et alors quand tu vas voir Zaïd, Zaïd, bah, je sais pas, il croise les bras, il fait ouais, j'espère que t'as ma paix. Et alors peut-être, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont pas humains que j'accorde plus d'importance, et peut-être que je suis totalement biaisé, probablement d'ailleurs, je pense, parce que forcément quand c'est extraterrestre c'est quand même plus stylé, en fait c'est
C'est
plus
ça.
cool.
Il y a une découverte.
C'est ça, mais ouais, moi les personnages, je suis assez mitigé dessus parce que je trouve que il y en a qui sont incroyables et vrai, enfin qui sont juste incroyables, et notamment un personnage humain, le putain, j'ai perdu son nom, le commandant, enfin le
Anderson?
Anderson, voilà, putain, je trouvais pas son nom. Anderson est vachement cool, et lui pourtant c'est un perso qui reste assez
Oui, c'est un
cliché, tu vois.
militaire.
C'est ça, ouais. C'est un militaire, bon, un peu carré et tout, mais. Enfin. Bon, attention, spoiler, mais par exemple, si tu le mets à la tête, du conseil, enfin, que tu le mets en tant que conseiller, quand tu vas lui parler et tout, enfin, il y a des choses vachement intéressantes. Tu vois, il est en galère et tout, là, putain, moi je suis militaire, tu m'as foutu là. Enfin, c'est tout con, mais je trouve que lui, il est cliché, mais il est attachant et ça marche bien, tu vois.
Après, c'est vrai que, bon, par rapport à Zaïd, c'est vrai que lui, on le voit dans les trois jeux, on a le temps de
Ouais.
développer sa relation avec Shepard, alors que Zaïd, c'est plus un mec qui est là à côté. Bah, de toute façon, c'est un mercenaire. Donc, il est là pour faire le boulot pour lequel tu le payes, et il va pas chercher à faire
Ouais, mais tu vois, par
ami-ami avec.
exemple, même une Kelly ou l'autre, c'est Samantha, je crois, qui est aussi notre aide à un
Ouais.
moment, des personnages comme ça qui finalement sont propres à un jeu, restent vachement attachants, je trouve, vachement fort, tu vois, et ça matche bien quoi. Et alors que, alors en fait, ça pourrait faire une déviation carrément, mais je saurais pas te l'expliquer, mais pour moi il y a des personnages qui marchent pas, et il y a des personnages qui marchent très bien, et je suis pas sûr que ce soit lié au temps d'apparition, tu vois. Parce que
Oui.
comme je dis, la voleuse, je trouve ça marchait très bien. Les dialogues et tout est vachement cool, Kelly et tout vachement cool aussi. J'ai pas les noms, mais tout con, mais tu sais, les deux mécanos qui sont tout en bas, tu vas les voir et tout, qui jouent aux cartes avec toi. Enfin,
Gabriella Daniels et
oui. Alors Victor, on se dit spécialiste et
je vais retrouver.
ouais, t'inquiète, je te fais confiance pour ça. Mais je trouve que eux, ça marche super bien. Alors peut-être que toi, tu seras pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a des persos comme ça, on leur balance une ligne de dialogue tous les 3 heures de jeu, mais ça marche super bien parce qu'ils sont bien écrits, bien construits. Et il y en a d'autres qui marchent pas du tout. Voilà.
Kenneth Donnelly.
Ah ben voilà.
Voilà, c'est bon.
Mais bon, moi, peut-être que l'explication, c'est que je trouve que c'est moins forcé. C'est peut-être aussi parce que moi, en fait, Zaïd, parce qu'en plus, moi vu que les DLC intégrés, Zaïd, je vous explique, on arrive, c'est Omega, c'est ça, voilà, on arrive sur Omega, et Zaïd, littéralement, il nous attend les bras croisés, tu vois, et t'es en mode, ben, gros, enfin, tu vois, enfin, oui,
Oui.
non, mais,
Oui, alors que tu es
voilà,
censé recruter une équipe
c'est
d'experts et
ça.
tout, que tu vas avoir des petites quêtes pour les recruter chacun de leur côté, et puis lui il est juste là, genre, ok, bah je suis là.
C'est ça en fait, si je me trompe pas, mais dans l'histoire, moi, c'est qu'en fait, je vais aller du coup sur Mega pour Mordine, entre autres, et t'arrives, et lui il dit, ouais, bon, en fait, y a ton boss qui m'a appelé, il m'a filé de la thune, vas-y. Et par contre, j'ai un truc à faire qui débloque sa mission et tout. Mais Mais voilà, il y a aussi ça, tu vois, c'est tout con, mais c'est aussi pour ça qu'un Jacob et tout, je trouve ça marche pas très bien, encore que Jacob, pour le coup, sa mission secondaire est vraiment très cool. Je l'ai beaucoup aimé, moi. Mais donc lui, je le mettrais un peu à part, parce que lui, c'est un peu l'entre-deux. Mais voilà, en tout cas, pour rester sur Zoid, moi, c'est peut-être trop forcé, quoi. Mais après, ça n'empêche que tous les autres persos sont extraordinaires, quoi. Je veux dire, l'évolution de Garrus est géniale. Comme j'ai dit, Mordine, bon, moi c'est mon personnage de cœur pour plein de raisons, mais c'est parce que je trouve que c'est un personnage qu'ils ont rendu vachement touchant, alors que de base ils lui mettent un caractère qui n'est pas du tout, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un beau tour de force, parce que quand tu le rencontres, tu te dis putain, mais c'est quoi ce truc et
Ah
tout, enfin,
ouais, froid calculateur,
c'est ça, ouais, tu sais,
pragmatique.
il te fout un flingue entre les mains, tu vas aller me chercher ça, machin, enfin, t'es là, ok, et finalement, t'avances avec lui, t'évolues avec lui. Et je sais pas, enfin je sais pas si lui il change ou si c'est juste toi qui en apprends à le connaître, mais en tout cas, enfin t'es touché quoi par des petites phrases, parce que c'est des trucs qui sont tout cons, mais c'est des petites phrases qui venant de lui sont touchantes. Et je trouve que c'est un vrai tour de force, parce que faire chialer avec des persos qui sont émotifs, c'est pas compliqué, mais faire chialer avec des persos qui sont comme ça à la base présentés comme étant froid, calculateur et tout, bah, ça c'est fort, ça. Voilà.
Ah non, c'est clair. Mordine, en effet, il est super touchant parce que déjà, tu sens qu'il a vraiment une évolution entre le 2 et le 3, qu'il prend sur lui d'une certaine manière, qu'il a des remises en question, tout ça. Donc c'est un personnage qui évolue. C'est là aussi le problème de Zalid, c'est qu'il n'évolue pas, en fait.
Non.
Zaïd, il est tel qu'il est tout le long du jeu. Et c'est vrai que à l'inverse, un mec genre comme Garrus, c'est vraiment c'est le meilleur pote ou la romance en fonction de si vous jouez une commandante Shepard.
Je fais juste une petite aparté, mais parce que je suis sur le nurseed de mèmes de Mass Effect sur Facebook,
Ouais.
et le nombre de mèmes qui sont liés à la romance entre Commandant Shepard et Garrus, c'est assez abusé, quoi. Donc,
Ouais, non,
si jamais il y a quelqu'un qui passe par là qui est sur le nurseed, apparemment il y a un vrai fantasme.
Oui, non, mais en même temps, c'est normal. Il est
Oui, là.
énormément de charisme, ce personnage. En plus, il y a plein de. Enfin, c'est un personnage qui va te raconter des blagues ou des choses comme ça, qui va te faire.
Ah ouais, non, il est
Qui
incroyable.
vraiment passe, qui a des dilemmes moraux aussi. Sa mission dans le 2, c'est quand même un dilemme moral assez fort. Et puis bah à la fin, quand vient la fin, il a des mots hyper touchants, mais tout en restant digne, en mode genre ouais, un peu on se revoit de l'autre côté et tout, mais bien plus touchant que ça évidemment. Ou des passages où tu vas faire du ball trap avec lui, voilà, sur un endroit qui est pas du tout dédié à ça, et
Ouais.
qui est en fait, vu que Garrus est un ancien flic, il est en mode genre, ah, on n'a pas le droit de faire ça, mais je le fais quand même, je m'en fous. Voilà, il y a vraiment un
Ouais,
caractère fort.
et puis en plus ce qui est fort, c'est qu'il se trahit jamais, quoi. C'est un personnage, même ils évoluent les personnages, mais ils se trahissent jamais, dans le sens où même là, tu vois, dans la séance de Ball Trap, ben, ça commence avec Garrus qui est vachement gêné parce que il a envie d'aller boire un coup avec nous, mais c'est pas quelque chose qu'il saurait faire, tu vois. Et donc du coup, ben, tu finis à tirer sur des trucs sur un endroit totalement improbable, quoi. Parce que c'est ce qui correspond au personnage. Et ça, c'est vachement cool. Parce qu'ils auraient pu aussi dire, ouais, bah, juste Garrus, il vient t'inviter, on va boire une bière, tu sais, au pub du coin. Enfin, façon un peu cliché, mais je trouve que ça, c'est vachement fort aussi. D'avoir su rester assez authentique sur les personnages, en tout cas ceux qui sont développés. Il y en a aussi un puisque là on est dans les personnages. Pour moi, les trois personnages qui m'ont vraiment marqué, c'est bien sûr Garrus, Mordine et Tan, qui, je trouve, est. Honnêtement, j'aurais tellement aimé qu'il soit encore plus développé, mais je trouve que dans la manière dont il est développé, moi, il m'a beaucoup marqué.
Ouais.
Parce que je trouve son histoire vraiment cool et que sa voix est trop cool.
Avec une sensibilité, une pudeur assez marquée. C'est vrai que c'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir non plus.
Complètement, ouais. Et puis, en fait, c'est un personnage qui, même, tu parlais tout à l'heure de la petite discussion de Garrus et tout, mais. Tan, en fait, c'est un personnage avec qui j'ai beaucoup aimé parler. puisqu'il y a des... En fait, tu peux aller lui parler à plusieurs moments, on va dire, importants de sa vie et de son évolution de santé, etc. Et il va avoir des réflexions, il va te laisser aussi des messages qui ont des réflexions qui, je trouve, sont vachement intéressantes. Et moi, je trouve que c'est un personnage que j'ai, enfin, je trouvais vraiment bien, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec lui, à lire ce qu'il écrivait et tout. Voilà. Du coup, pour moi. Mais après, il y a plein d'autres. Enfin, je veux dire, on va pas tous les citer parce qu'honnêtement, on pourrait passer que 5 heures. Mais même Javik, que j'adore parce que je trouve que. Enfin, Javik, franchement, ceux qui jouent, prenez Javik à mission avec vous, juste pour les punchlines qu'il lâche à chaque fois, tu vois. Genre, dès que t'arrives sur un monde, il fait ah ben à l'époque, eux, c'était des tétards, tu vois. Et. Et juste pour ça vaut le coup, enfin, il faisait mourir de rire, tu vois. Et après, mais après ça aussi, on l'a pas évoqué, et je vais m'arrêter là, parce que sinon je pense que je suis parti pour 5 heures, mais tout con, mais les duos de personnages, parce qu'on l'a pas trop dit, mais du coup dans ce jeu, on part avec un duo de personnages qu'on a choisi, et le duo a son importance, bon stratégique si on veut, mais surtout a son importance dans les dialogues, puisqu'ils se parlent entre eux, et quand tu prends par exemple dans le 2, je crois, des personnages qui étaient dans le 1, bah, ils se font des petites vannes, tu vois, je me souviens, c'était Garus, je crois... Enfin, je sais plus, j'avais pris Garus avec je sais plus qui se balançait des vannes par rapport à l'ascenseur, tu vois, parce que c'est une running gag de Mass Effect. Et enfin, c'est tout con, mais si tu prends des persos différents, ils auront pas les mêmes interactions et c'est trop cool, quoi. Voilà.
Mais tout ça, et puis en fait, il y a plein de personnages qu'on n'a pas évoqués, mais qui sont super, super importants. Mais les Krogan, Vrex et Grunt, Tali, la Carienne, bon, qui est mon crush. Voilà.
J'attendais que tu
Mais
le
oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, il y a vraiment beaucoup de personnages. Tous les personnages sont, dans leur grande majorité, très forts et très, très intéressants à suivre. Après, c'est aussi au niveau des affinités. Avec qui tu as des affinités, tu vois, tu as des personnalités avec qui tu vas pas t'entendre particulièrement.
Ouais, bien sûr. Ben, par exemple, Miranda, tu vois, c'est pas un perso que j'appréciais, mais parce que c'est pas un perso que j'appréciais moi-même, tu vois. Mais objectivement, c'est un perso qui est quand même intéressant, tu vois, dans la construction de son personnage. Je peux pas dire que c'est un perso plat, parce qu'il y a toute une histoire autour, enfin, tout est bien construit, c'est juste que moi, c'est pas un perso qui me touche, voilà.
Oui, c'est ça.
Mais le perso est super en soi, quoi.
Et je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Tain, où tu disais qu'il avait des réflexions très intéressantes, et je voulais justement rebondir là-dessus pour parler de l'intelligence du jeu et des thèmes qu'il aborde qui sont parfois source de réflexions intéressantes. Je pense notamment à moi, ce qui m'avait pas mal intéressé, c'était toutes les réflexions autour des Geth, donc qui sont des machines dotées d'intelligence artificielle, et qui sont rebellées contre leur créateur. Et donc c'est une intelligence artificielle émancipée. En fait, on a toute une réflexion autour de cette intelligence artificielle qui fonctionne comme un esprit de ruche et qu'on oppose à des intelligences artificielles qui, elles, auraient une intelligence propre et du coup auraient une autre vision du monde, en fait. Et il y a plein d'autres sujets comme ça qui sont très très intéressants. Il y a avec Grunt, on a la...
Le génophage,
Le
aussi.
voilà, oui, par exemple. Je te laisse en parler parce que...
Oui, non, mais enfin, j'ai lâché ça un peu comme le génophage, au revoir. Mais c'est parce que moi, c'est ce qui m'a marqué, le génophage. Pour le coup, je pense que ça a presque effacé, enfin, je dirais même, non, c'est pas presque, ça a effacé pour moi, peut-être la trame principale, parce que je trouvais cette question vache. Enfin, c'est un sujet qu'ils ont très très bien amené, puisque c'est quelque chose qui part d'une toile de fond et qui prend de plus en plus d'importance au fil des jeux. Enfin, une toile de fond qui est quand même présente dans le 1, parce qu'il y a des choix par rapport. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives à la fin avec des missions où tu as des choix qui te permettent, oui ou non, d'annuler ce genre de choses, et tout ce qui est lié, bah, ça m'a beaucoup marqué, parce que du coup, l'idée de savoir est-ce que l'on peut. Pour un bien commun qui est finalement ben, qui finalement basé sur enfin je sais même pas comment le dire mais c'est un bien commun à intenter, est-ce qu'on peut complètement annihiler une population et la réduire finalement à un état de servitude ou en tout cas quasiment la condamner Et après, est-ce qu'on peut revenir en arrière, mais du coup reprendre le risque que cette population devienne belliqueuse, agressive? Et enfin, c'est jamais des questions simples, puisque t'as jamais le moment où tu te dis, bah ouais, ils ont été méchants, donc vas-y, tu vois. Parce que enfin, je trouve que Mass Effect amène ça bien pour te présenter la réalité, et que c'est des atrocités des deux côtés, tu vois, et que juste finalement c'est le camp des gagnants qui ont été gagnants parce qu'ils ont eu la science qui leur a permis de... Enfin, ils ont eu ce virus qui ont permis de remporter, mais je veux dire, est-ce que... Enfin, le choix pour moi en tout cas du génophage, parce que je galère un peu à le dire, mais le choix du génophage a pour moi été l'un des plus durs, enfin, tous les choix liés. Puisque si dans le 1 j'étais assez convaincu de me dire ouais vas-y c'est des méchants et tout, enfin j'avais aucune hésitation à dire que fallait que ça reste et tout, dans le 3 j'étais pas bien, tu vois, j'étais là putain merde. Parce que t'évolues aussi, tu vois, c'est ça, que c'est que t'évolues avec l'univers, t'évolues avec les personnages, et plus en fait je pense que dans Mass Effect il faut quand même faire l'effort de prendre le temps de discuter, de lire, de beaucoup s'intéresser à l'univers, puisque c'est un des rares jeux, enfin c'est pour moi un des jeux où tu peux pas rater ce genre de le lore, parce que c'est trop important
Pour
pour plein de choses,
déterminer
tu vois.
ouais, tes choix, tout
C'est
ça.
ça. Parce que le choix du Genophage, par exemple, c'est un choix qui, si tu te bases uniquement sur, on va dire, un rush du jeu sans trop t'intéresser au dialogue, c'est un choix qui peut paraître assez obvious, tu vois. Mais si tu prends vraiment le temps de creuser, de t'intéresser, ben, c'est un choix qui est impossible. Voilà.
C'est clair, mais en fait, on efface. Mass Effect nous propose plusieurs fois des dilemmes moraux qui sont dignes du fameux.
Avec le train là?
Oui, le trolley problème, là, je sais plus comment ça
Ouais,
s'appelle en français, mais.
où tu peux sauver une personne ou je sais pas quoi là. Enfin,
Ou
t'as
en
deux.
sac.
Ouais.
Ouais, soit tu sauves trois personnes, mais en sacrifiant une autre, soit tu. Enfin, bref, c'est toujours des questions morales qui sont extrêmement difficiles parce qu'il y a juste pas de bonne réponse en fait. C'est juste à ta discrétion. Et en fait, Mass Effect même te met dans des contextes comme ça aussi, au-delà des choix, même sans en toile de fond, comme tu disais, tu te retrouves dans des situations, toi, ton personnage, notamment dans le 2, à travailler pour bah, pas forcément pour le bon côté, malgré toi. Et en fait, tu as le choix de soit de complètement adhérer aux idées de ton employeur, pour rester vague, soit à prendre un peu tes distances
Mais
avec
d'ailleurs,
tout ça.
je rebondis vite fait sur ce que tu évoques là, parce que ça parlera aux gens qui nous écoutent, mais enfin, en tout cas ceux qui ont fait les jeux. Mais ça relève pour moi un autre thème qui est vachement important, enfin, en tout cas moi qui m'a semblé important et qui m'a assez marqué, dans le 2 notamment, mais qui se poursuit dans le 3, c'est la notion d'identité en fait. D'identité de race, j'ai envie de dire. Avec. En fait. Pour moi, Mass Effect réussit le tour de force, alors ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais de présenter les gens assez, je vais pas dire racistes, mais qui en tout cas sont très identitaires, de manière pas aussi péjorative que on a nous une vision dans la réalité. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en
Oui, je
gros,
vois.
on a affaire parfois à des peuples qui sont très identitaires, racistes, clairement assumés. Ou pas forcément racistes, mais en tout cas qui ont une volonté de promouvoir leur espèce au détriment des autres. Mais finalement, dans l'univers qui nous présente Mass Effect, il y a une certaine, on va dire une certaine, enfin, on a envie de leur donner du crédit en tout cas à certains moments. Et pour moi, ça me choque pas que des gens puissent totalement adhérer, comme tu disais, avec l'employeur et tout, puisque c'est pas du tout manichéen en fait. Ça va pas juste être des méchants racistes qui, pour telle raison, vont faire ça, tu vois. Alors bien sûr, faut comprendre un peu, enfin. Faut comprendre un peu, faut voir beaucoup plus loin, mais par exemple, il y a quand même toute cette notion, si on parle des humains, tu vois, qui ont quand même été méprisés, qui au début n'étaient pas dans le conseil, il y a quand même, quand tu te renseignes un peu, quand tu vois l'évolution de l'univers, il y a toujours eu un peu ce côté où les humains, bah, se font cracher dessus, même quand tu parles avec certains représentants d'autres espèces qui te méprisent complètement, tu vois. Et finalement, tu peux en arriver, que ce soit, enfin, je trouve, à légitimer, dans le jeu, je veux bien insister là-dessus, à légitimer la présence de ces groupes identitaires, et voire même à leur donner une certaine légitimité, même si moi, pour le coup, j'adhère pas
À
du
les
tout à ça.
comprendre.
À les comprendre, voilà, chercher un
Voilà.
mot. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien amené, quoi.
Plusieurs fois, on est amené à avoir, oui, des pas des hégémonistes, mais j'ai plus le terme, mais les suprémacistes, voilà. Les suprémacistes humains qui vont avoir le. Qui vont se baser sur le fait que bah, notre espèce est haïe par toutes les autres pour dire que bah, nous, il faut qu'on soit, entre guillemets, fort, qu'on inverse le rapport de force pour qu'on se fasse respecter, par exemple. Et d'autres espèces, bah, notamment les Krogan, qui, eux, sont une espèce qui est, on va dire, presque naturellement suprémaciste. Voilà, parce que ils vivent que par les rapports de force, en fait.
Ouais,
Par les rapports de domination.
carrément, ouais.
Et respectent que ceux qui sont plus
Mais
forts qu'eux.
du coup, ce qui est fort, c'est que autant les Krogan que du coup les suprématistes humains sont crédibles, quoi. Et je veux dire, les Krogan, quand tu les rencontres, au début, tu dis waouh, c'est quoi ça? Mais finalement, quand tu leur parles, notamment par rapport aux génophages et tout, enfin, tu comprends quand même. Tu as presque envie d'adhérer à des. Enfin, notamment quand tu sur leur planète, tu vois, que tu vois les
C'est un
dégâts.
peuple brisé.
Voilà, exactement. Et du coup, tu y trouves une certaine cohérence. Alors après, je vais pas m'hasarder à faire des parallèles avec la réalité et tout, mais je trouve que c'est justement très bien construit et que ça renvoie plein de choses parce que justement, c'est très très bien écrit. Et là, ça appuie ce que tu disais au tout début, il y a une demi-heure, mais que l'écriture, pour ce côté-là, est vachement fine, quoi. Et parce que des jeux où ils foutent des mecs suprématistes, il y en a plein, tu vois, mais des jeux où ça marche, j'en connais pas beaucoup.
Ouais. Non, mais
Donc ça, c'est aussi un
c'est.
truc qui m'a marqué, voilà, pour moi.
En tout cas, ouais, y a plein de bonnes choses dans cette saga. Là, j'essaye de revenir dans mes souvenirs, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se percutent et je sais pas par quoi commencer. Et ça sert à rien de faire
Non, non,
une
bien sûr,
liste détaillée.
mais de toute façon, on pourra jamais, je pense, parce que il y a quand même aussi un truc. Enfin, personnellement, Mass Effect, j'ai aussi vécu comme un apprentissage, mais je saurais même pas te dire précisément sur quoi, tu vois. Mais tout comme, enfin, je veux dire, je dis Mass Effect, mais c'est pour moi des œuvres, je dis d'art au sens général, t'apportent quelque chose, un apprentissage, je dirais, sous toutes ses formes. Et c'est pas forcément toujours décryptible, et ça n'a pas de toute façon vocation à l'être. Mais en tout cas, Mass Effect, t'en sors, c'est sûr, t'es changé, quoi. Notamment dans les thématiques. Il y a des thématiques qui sont assez obvious, comme celles qu'on a évoquées. Il y a aussi la thématique que t'as. Enfin, tout ce qui est intelligence artificielle, t'en as parlé tout à l'heure, mais qui est ultra bien évoquée. T'as toute la thématique, je trouve, de la géopolitique de manière générale, qui est vachement bien construite, quand même. Mine de rien, ça, c'est pas rien, parce que. Dans un univers aussi vaste, c'est pas toujours évident d'arriver à caler des choses. Et puis voilà. Alors après, moi, il y avait quand même aussi la. On en a parlé au tout début, mais. Et ça relie au génophage, mais c'est juste pour conclure là-dessus. C'est tout ce qui est reine rachnie, ce genre de choix, qui puisse impacter totalement une espèce. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Voilà. Mais c'est un peu comme le génophage, pour le coup, mais c'est peut-être plus brutal. C'est peut-être moins amené avec tendresse.
Et puis c'est pour ça que justement, il faut se renseigner bien et lire un peu. Enfin, c'est des jeux qui sont assez bavards. Il va y avoir pas mal de choses à lire, d'éléments à découvrir, qui sont pas forcément obligatoires. Tu peux complètement passer à côté. C'est pour ça le choix avec la reine Rachni, d'anéantir une espèce ou non. Bah en fait, vaut mieux être au courant de tous les tenants et les aboutissants, parce que en effet, si tu y vas un peu genre sans réfléchir, tu te dis bah en fait c'est une espèce invasive ultra dangereuse et tout, y a pas voilà comme tu disais c'est le choix est obvious, mais en fait pas tant que ça et le truc qui est bien c'est aussi ça je trouve ça vraiment très très intéressant, c'est notamment avec la reine Rachni, là, ça, c'est qu'en fait, tu sais pas si t'as fait le bon choix tout de suite. Faut peut-être attendre un jeu ou plus pour savoir, et quand je dis bon choix, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais si le choix que t'as fait a les conséquences auxquelles tu t'attendais, ou a des mauvaises conséquences, de bonnes conséquences, pour savoir quelles conséquences ton choix va avoir, il va falloir peut-être attendre un jeu ou deux. Et
Ça, c'est fort.
ça, c'est important.
Complètement, ouais. Ben écoute, après là, comme j'ai dit, enfin, de toute façon, je pense pas que l'idéal soit de faire une liste, mais déjà, on a évoqué, je pense, pas mal de points qui font que cette saga est assez incroyable. Donc franchement, ceux qui l'ont pas fait, on le redit, mais foncez. Foncez si vous aimez, si vous aimez un univers riche. Je pense après que c'est une saga que de toute façon beaucoup de gens ont fait. Mais s'il y a un peu des retardataires comme je l'étais, n'hésitez pas.
Surtout que il y a des rumeurs qui annoncent possiblement que le jeu va apparaître dans le Game Pass de Xbox
D'accord.
bientôt. Donc en payant un abonnement de je sais plus combien, enfin bref.
Mais
Avec l'abonnement vous
ouais,
pourrez
parfait.
jouer au jeu quoi.
Parfait, parfait. Et d'autant plus que ça va nous permettre d'enchaîner de manière très fluide, mais d'autant plus que potentiellement, enfin même il a annoncé non, le prochain Mass Effect
Oui.
avec le magnifique trailer où on peut voir c'est Lyra non qu'on voit, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai
On
pas
n'a
vu.
même pas évoqué Lyra alors que c'est certainement des personnages les plus
Ouais,
importants.
c'est vrai.
Comme quoi.
Mais de toute façon, on n'a pas vocation à faire le tour. Enfin, c'est trop vaste et ce serait de toute façon trop décevant pour vous, puisque tout ce qu'on peut vous dire, c'est foncer, quoi. Foncer et puis là, on n'a pas fait le tour d'un un millième de tout ce que Mass Effect peut apporter, de tout ce que Mass Effect présente et de tout ce que Mass Effect est, puisque on a évoqué, enfin, je veux dire même en termes d'histoire, on n'a pas parlé de tout ce qui était Guerre du Premier Contact, qui est super intéressant. Enfin, et ça, mais ça d'ailleurs, on pourra en reparler parce que, mais plus tard, parce qu'après, on va évoquer les projets et tout, donc on en reparlera peut-être là. Mais déjà, on va peut-être parler du jeu, puisque je pense que toi, t'as plus de news que moi. Moi, j'ai juste vu le trailer il y a déjà un petit moment, mais je
Alors,
sais pas s'il y a
oui,
des news en plus.
y a un nouveau Mass Effect qui a été annoncé, mais je pense qu'avant de parler de ça, il faut parler de comme disent les anglophones, The Elephant in the Room, Mass Effect Andromeda, qui est donc.
Non, mais du coup, le prochain.
qui est donc un épisode.
Qui n'existe
Un
pas.
épisode. Un épisode qui n'existe pas pour beaucoup de gens, mais qui, je pense, a son importance. C'est donc l'épisode qui est sorti en 2017, si je me plante pas, ou 2016. Et c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Mass Effect, mais pas avec les protagonistes de Mass Effect 1, 2, 3, étant donné que l'histoire, elle est terminée. On a mis une fin à l'arc commencé dans le 1, et en fait ils voulaient totalement se déconnecter de cette histoire, et du coup ils ont décidé de créer une histoire qui se passe dans la galaxie voisine, d'Andromède, avec des colons qui sont envoyés donc pendant un voyage de 600 ans dans la galaxie voisine de la nôtre. Et c'est un jeu qui a été assez mal reçu, qui a un petit peu détruit nos espoirs de voir pendant un moment de voir du Mass Effect revenir
Sur le devant de la scène, quoi.
sur le devant de la scène. C'est un jeu qui a des défauts. Mais qui a été jugé très sévèrement à sa sortie, je trouve, selon moi. Et je pense que c'est plutôt quelque chose d'assez général parce que le jeu s'est fait complètement bâcher. Alors il y avait des problèmes à la sortie, il n'était pas bien fini le jeu. Mais maintenant, sur les sites de jeux vidéo, il est plutôt bien noté par le public aux alentours de 15-16, ce qui est quand même
Ouais,
plus que correct.
mais le problème, c'est pas que ça s'appelait Mass Effect, tout simplement.
Le problème, c'est qu'il passait derrière une saga qui avait déchaîné les passions, en fait.
Ouais, mais justement, je veux dire, si ça s'appelait tout con, mais si ça s'appelait juste Andromeda, et même s'il reprenait l'univers, mais il n'y avait pas là cette volonté de se raccrocher forcément à Mass Effect, est-ce que ça aurait pas mieux marché? Parce que finalement, là, enfin, c'est même ça, c'est qu'en vrai, ça se passe totalement ailleurs et tout, ils avaient peut-être pas besoin de dire on est dans Mass Effect, quoi. Parce que les gens s'attendaient à du Mass Effect sous toutes ses formes, et même s'il y a des trucs un peu similaires, il y a quand même des changements dans le gameplay, il y a des changements aussi dans, enfin, même dans les scénarios, dans les choix, enfin, du coup, c'est quand même. On est quand même sur un truc un peu différent, quoi.
Alors oui, en effet, c'est un petit peu différent. Après, je suis pas sûr qu'il faille. Pour moi, c'est un digne héritier, au moins sur le gameplay déjà. Le gameplay devient cool. Ça, c'est.
Ce qui est pas mal déjà.
Je suis méchant, mais en fait, le gameplay devient beaucoup plus dynamique, beaucoup moins tactique qu'avant. Ça, c'est vrai. Ça a été souligné, c'est vrai. Mais Mais je pense que c'est un bon jeu dans la saga, dans l'univers de Mass Effect. C'est un très bon jeu et il faut qu'il y ait ces liens avec Mass Effect aussi parce qu'ils ont leur importance. Comme on disait, hein, la cohérence de cet univers, c'est important. Enfin, c'est pouvoir l'exploiter, c'est une chance. Et il y a plein d'autres choses à raconter dans cet univers. Et en effet, je dirais que ce jeu, il a un peu la valeur de Mass Effect 1. C'est-à-dire que c'est un jeu bancal, avec un univers très très chouette, qui se bonifiera avec, qui se serait bonifié avec le temps, grâce aux suites. Aux suites et aux conséquences de nos actes. La grosse épine dans le pied, c'est que l'univers, on le connaît déjà, il n'y a plus cet émerveillement qu'on avait pu avoir avec Mass Effect 1. Et je pense que c'est là où les gens ont jugé vraiment, peut-être un
Bah,
peu gratuitement.
après on le connaît mais pas tout à fait non plus quoi sans spoiler l'histoire quand même on est quand même dans un truc hein, où on rencontre de nouvelles espèces genre. Bon même si pour le coup elles ont peut-être pas assez différentes de ce qu'on a déjà connu quoi c'est peut-être ça le problème aussi quoi on n'est pas sur des trucs qui sont vachement clivants hein.
C'est vrai. Après, moi, j'ai pas envie de le juger trop difficilement. En plus, je suis en train de le refaire actuellement. Donc, il est frais dans mon esprit. Le problème, c'est que je pense qu'il aurait pu amener énormément de choses intéressantes si on avait eu les suites. Malheureusement, vu l'échec critique et commercial du jeu, tout a été annulé, notamment les DLC du jeu qui avaient été annoncés et qui ont été complètement abandonnés. À mon grand dam. Mais je pense que ça aurait pu se bonifier. Les principaux reproches qui revenaient, c'était que les personnages n'avaient pas de charisme, les personnages n'étaient pas au niveau des autres. Je suis prêt à le reconnaître, il n'y a pas de souci. Même si certains personnages sont quand même cool, le personnage principal qu'on va jouer, en effet, c'est pas Shepard. En même temps, là, on parle d'une autre psyché aussi. On parle d'explorateurs qui viennent découvrir une autre galaxie. C'est pas des militaires endurcis, très serious business.
Ouais.
Donc forcément, le ton est plus léger. Bon. Le truc, c'est que en plus, alors je dis pas que c'est bien géré à chaque fois, mais il aborde des thèmes plutôt intéressants, notamment des thèmes de l'eugénisme. Les thèmes de la religion, notamment par rapport à la création, y a toute une intrigue autour de est-ce que un dieu, en fait, c'est pas une autre espèce qui a créé de toutes pièces notre existence, en fait? Est-ce que, si ça se trouve, un dieu, c'est peut-être juste quelqu'un, une espèce qui t'a édifié, en fait? T'as toutes les problématiques de colonisation aussi. Qui sont très intéressantes. Voilà, des choses sur le poids des responsabilités, les problèmes de légitimité, toi-même tu sais, les crises politiques, les guerres civiles, des choses comme ça. Je trouve que même si c'était pas forcément abordé de manière. C'était pas toujours abordé de manière fine, mais c'était des choses qui, moi, me plaisaient.
Ouais,
Enfin, c'est des...
disons que dans la globalité, il débute des thèmes qui sont pertinents, mais c'est peut-être la finalité qui manque, et cette finalité, on l'aurait retrouvée dans les DLC, dans les suites,
C'est ça. Et en fait,
et qu'on n'aura pas du coup.
qu'on n'aura pas. Il y a notamment un DLC avec les Cariens, mon espèce préférée, qui devait apparaître, où tu finis le jeu et puis t'as un mec qui dit, Ah, on a un message des Cariens et que... Il se passera rien et que c'est sorti vaguement au bouquin et que ça n'a jamais été traduit. Voilà.
Tout va bien.
Je suis salé. Bref, je pense que en effet c'était un jeu bancal, notamment aussi par rapport au fait que, enfin, alors là je rentre dans les trucs techniques, mais notamment le moteur utilisé pour le jeu. Et pas du tout un moteur adapté pour ce genre de jeu. Et apparemment, ils ont eu beaucoup de problèmes lors de la production. Ça a été un peu une catastrophe.
Bon après, on n'est pas
Voilà.
là pour refaire le procès du jeu, mais
Oui.
ça vaut aussi le coup, c'est vrai, de dire que il faut pas non plus s'arrêter finalement à l'échec des critiques, à l'échec commercial. parce que le jeu a quand même du potentiel, développe des choses qui peuvent être intéressantes. Ça reste un jeu incomplet, mais même si on en a dit beaucoup de bien, Mass Effect est à bien des égards aussi pas un jeu parfait, quoi. Et il faut aussi savoir prendre un peu de recul et pas être juste, on va dire, trop dans la passion, quoi. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est
Ouais.
que si on reste juste dans le côté trop passionné de la trilogie, de toute manière, tout nous décevra, quoi. Enfin, je vois mal comment, que ce soit une série, un film, un nouveau jeu, je vois mal comment il pourrait être à la hauteur émotionnellement de quelque chose qui
Ce que tu
apporte
as
à la
vécu.
fois la... Enfin ouais, parce que il faut aussi se dire que, mine de rien, la trilogie, elle a un peu enfin, date un petit peu maintenant, et que la plupart des gens qui sont très fans l'ont quand même fait quasiment à la sortie ou quelques temps après, quoi. Il y a finalement peu de gens comme moi qui l'ont découvert longtemps après, et en tout cas des gens vraiment passionnés, et du coup, il y a aussi le côté un peu nostalgie, c'est-à-dire que quand tu découvres une trilogie il y a certaines années, bah, il y a quand même ce côté où tu vas la bonifier en ton esprit, quand tu arrives devant Andromeda, qu'il y a des défauts, notamment techniques, comme tu le disais, bah, tu vas pas lui laisser sa chance, quoi. C'est que je pense qu'il faut être vachement. Après, je comprends aussi, quand tu es passionné d'un truc, voilà, tu es à fond dedans, mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur.
Il faut noter aussi que les jeux en leur temps de la trilogie, ils ont eu des gros problèmes à leur sortie, mais on est arrivé dans une époque où il y a des procès qui sont faits auprès, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, c'est un peu le déchaînement d'avis qui racontent tout et leur contraire. Et je pense que Mass Effect Andromeda, c'est un des premiers jeux qui a subi des grosses polémiques à sa sortie. Enfin, polémiques, pas vraiment,
Oui,
mais
mais grosse critique quand même.
des grosses critiques et que... voilà, alors je vais dévier un petit peu, mais là c'est incroyable. Là, ça fait quelques temps que tous les jeux, les gros jeux, les triple A qui sortent, se prennent des shitstorms dans la gueule, mais...
Monumental, ouais.
Violent, quoi. Il n'y a pas une seule sortie qui est épargnée, et en fait, les gens sont déçus systématiquement. Mais, encore une fois, il faut reprendre peut-être des fois un peu de recul, et on voit bien que là, les critiques du jeu à froid sont très correctes. On parle quand même d'un jeu entre 15, entre 15 et 16, noté par les joueurs entre 15 et 16, ce qui est important de souligner. Donc c'est un jeu imparfait, mais qui reste quand même très agréable. Moi, il y a un truc qui me pose problème, c'est vraiment qu'il est très très bavard, et que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de dialogue, ce qui n'est pas un mal en soi, mais même moi qui suis un peu passionné par les lores et l'univers autour, des fois ça peut devenir indigeste.
Mais après, ce que tu disais, je trouve que, enfin, c'est une aparté aussi, mais globalement, que soit les, parce que ce que tu dis sur les jeux s'applique aussi aux films. Hein, je veux dire, en ce moment, il y a des films qui sont à peine sortis, mais qui se font défracter, quoi. Hein, je veux dire, par les critiques, que ce soit le public ou quoi. Mais même, enfin, je trouve que tout va très, très, très vite aujourd'hui. Et quand tu vois le temps de production et de création d'un jeu et d'un film, ça se compte en années. Et il suffit finalement de quelques jours pour que tout soit détruit, quoi. Parce que il y a un peu cet effet de masse aussi où
Un
oui.
Mass Effect.
Exactement.
Pardon.
Voilà, c'est la fin du podcast, on pourra pas mieux terminer. Donc... non, mais je veux dire, tout con, mais tu vois, enfin, quand tu regardes aujourd'hui les films qui sortent au ciné, enfin, moi franchement, je serais réal ou quoi, j'aurais les pétoches, quoi, parce que ton film, en fait, il se joue la première soirée, quoi. La première soirée, les mecs, ils mettent sur Sens Critique, oh, bah, c'était de la merde, tu vois. Parce qu'ils sont dans l'attente. Souvent, c'est les plus passionnés, en plus, qui vont directement. Donc, c'est même pas les mecs qui sont les plus objectifs. Et ils vont soit te démonter, soit te dire, ouais, c'est trop cool. Mais dans un cas comme dans l'autre, tu peux te demander à quel point c'est pertinent, tu vois, de se fier à ces critiques. Et pourtant, on le fait. Donc, mais bon, après, voilà, ça vaut pour les jeux aussi. Cyberpunk s'est fait défoncer. Enfin, je veux dire.
Ouais.
Les jeux, comme tu disais, se font défoncer, les films aussi, et moi je trouve ça, enfin, c'est une petite aparté, mais je trouve ça peut-être un peu dommage parce que je pense qu'on passe à côté de, comme là tu disais, les suites d'Andromeda, mais même pour les films, je pense qu'on passe à côté de belles opportunités. Il y a des films qui se font, qui ne voient, qui du coup n'auront jamais de suite et tout parce que bah, ça, ils sont fait éclater, quoi.
J'avais deux choses à dire. Cyberpunk, c'est encore différent. C'est vraiment qu'il est sorti dans un état déplorable à sa sortie, notamment pour les consoles. Les consoles. Pour les consoles.
Oui, les consoles.
Et ben. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'était. Il y avait vraiment, vraiment de gros, gros problèmes. Et même. Enfin, ça a posé un tel problème que Sony a retiré le jeu des stores et tout. Que Sony demandait remboursement auprès de Cyber. Enfin, auprès de CD Projekt. Enfin, il y avait des histoires pas possibles. C'est devenu le symbole de. Des jeux qui ont énormément de promesses et qui n'arrivent pas à les tenir au moment de la sortie. Symbole dont le dieu, c'est Star Citizen. Mais là où je voulais dire aussi, est-ce que tu as des exemples par rapport, tu parlais de films qui n'auront pas de suite et tout, alors que ça pourrait être cool
Alors attends que je réfléchisse.
Ah, je te
Ouais,
prends au
là tu me prends un
dépourvu.
peu au dépourvu. Mais si, alors il y en a un que j'ai bien aimé. Alors je sais pas si toi tu l'as vu. Je crois que c'est Mortal Engine qui s'appelle. Je sais pas si. Enfin, je sais que
Ah
c'était un
oui.
gros bide d'un point de vue box-office.
Ah
Mais le
ouais.
film s'est fait pas mal démonter. Mais moi j'ai bien aimé un autre film dans ce style que j'aime beaucoup et qui s'est fait énormément démonter. C'est un Disney. Je sais pas si tu l'as vu. C'est Lone Ranger avec Johnny Depp.
Oui.
Qui est un film qui se fait. Qui il y a une trilogie, tu sais, t'as Lone Ranger, t'as John. Enfin, John Carpenter, je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Enfin, t'as une trilogie de films Disney comme ça qui sont beaucoup plus matures et tout, qui sont fait défractés, et pourtant, c'est des films qui sont vachement cool. Pour le coup, Lone Ranger, en plus, c'est un film qui s'est fait démonter pendant sa production, c'est-à-dire qu'avant même que le film soit sorti, tout le monde disait que c'était de la merde, tu vois.
Ouais.
Et pourtant, le réel et tout, et Johnny Depp, et enfin, les acteurs ont jamais cessé de le défendre, mais le film s'est fait défoncer, et du coup, forcément, à sa sortie, il s'est fait défoncer. Mais moi, honnêtement, le film, je l'avais vu sans savoir tout ça, et j'ai bien kiffé, tu vois. Et qu'après, quand j'ai vu que c'était autant fait démonter, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu le problème, tu vois, c'est que si tu te bases que sur les critiques, forcément, t'arrives en disant, bah, c'est de la merde, oui, tu vas voir de la merde, quoi.
Oui.
Le deuxième, c'est John Carter, voilà.
Oui, d'accord. Mais ouais, non, c'est vrai. Et en fait, bah, pour revenir sur Andromeda, en effet, le jeu, comme tu le disais, se faisait défoncer avant même sa sortie. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas mis les mains dessus, qu'ils étaient déjà en train de chier à la gueule du jeu, parce qu'il y avait une animation qui était douteuse dans une cinématique qui avait été montrée, ou des choses comme ça. Et bon, il y a un moment aussi, faut prendre conscience que un jeu qui a des défauts techniques, maintenant, les jeux sont corrigés. C'est bon. Tu sais que si tu y joues Day One, tu vas avoir des bugs. Forcément, les jeux, maintenant, je veux dire, il y a tout le monde qui dit oui, il y a telle année, enfin, il y a 10 ans, les jeux sortaient, il n'y avait pas de bugs, c'était nickel. Ouais, les jeux, ils faisaient 2 gigas. Là, on est sur des jeux à 60 gigas. 60 gigas de données, t'as de la place pour des bugs et tout. Les jeux, techniquement, ont tellement évolué que, forcément. Et voilà, au pire, t'attends une semaine qui est les correctifs, parce que ça se passe comme ça. Les devs, j'aimerais pas être les devs le jour du lancement, parce que t'es en mode genre, tu vois tous les reports de bugs, t'es là, tu dois être en sueur et tu dois dire, bon, alors il faut qu'on corrige ça le plus vite
Ouais,
possible.
exactement. Ouais.
Voilà, les problèmes techniques qui peuvent avoir lieu sur un jeu, ok, faut les relever, mais non, c'est pas grave à notre époque. En général, les jeux sont entretenus et pendant quelques temps après leur sortie.
Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, moi, pour moi, que ce soit pour les jeux ou pour les films, je trouve que enfin, tout va trop vite, quoi. Genre, ça fait un peu boomer de dire ça, un peu vieux jeu, mais on laisse pas assez le temps, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est pareil, les films, il faut les prendre souvent, en tout cas dans les sagas, dans le cadre d'un univers, comme tu prendrais Mass Effect Andromeda comme une introduction, tu vois. Tu peux difficilement juger, je sais pas moi, par exemple, imagine il y avait que Le Seigneur des Anneaux 1 qui était sorti ou que Star Wars 4, j'en sais rien, tu pourrais pas juger l'univers entier sur un seul film. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, parce que aujourd'hui, franchement, si un film de la qualité de je sais pas, du Star Wars 4 ou quoi sortait, je suis même pas sûr qu'il serait enfin, qu'il se ferait finalement bien accueillir, parce que les critères aujourd'hui sont vachement exigeants, quoi. Je veux dire, Et tu vois, même des films, bon, récemment il y a eu Dune qui s'en est très bien sorti et tout, mais voilà, Dune, il y a une suite qui a été validée parce que ça a bien marché. Mais c'est-à-dire que tu peux demain avoir un film qui a un potentiel d'univers super, mais qui va juste rien faire parce que bah, il suffit qu'il y ait un acteur que les gens aiment pas ou qu'il y ait une scène d'humour de trop, tu vois. Et ça, et comme tu l'as dit pour les jeux, je trouve que c'est un peu pareil. Et c'est dommage parce que je pense qu'on passe à côté d'œuvres qui peuvent être vachement intéressantes. Je sais que c'est aussi le cas pour les séries. Je m'y connais beaucoup moins bien en série, donc je vais pas m'hasarder à donner des noms. Mais je sais aussi qu'il y a pas mal de séries qui ont été annulées. Et je vois souvent passer des gens qui sont vachement déçus sur ça, tu vois, parce que c'est toujours un peu la même raison. Alors, par exemple, une série qui a été reprise fort heureusement, mais qui avait à la base été annulée, c'était The Expanse par Syfy.
Oui.
Et alors, fort heureusement, ça a été repris, mais c'est le même délire. Tu vois, la série est géniale, je vous invite d'ailleurs à la voir pour ceux qui aiment la SF. Mais à la saison 3, ils ont arrêté, si je ne me trompe pas, et heureusement, ça a été repris, tu vois. Mais imagine, sinon, on serait passé à côté. Alors d'ailleurs, moi, en ce moment, je suis en train de me la refaire, et c'est vraiment cool. Voilà.
Faudrait que je me la refasse aussi. Mais en parlant de série, justement. Là, récemment, on a eu quelques rumeurs concernant des rumeurs qui se font de plus en plus.
Ouais, c'est des
Comment
pavés dans la
dire?
mare à ce moment.
Ouais, des rumeurs qui se font de plus en plus bruyantes concernant une possible série Mass Effect, avec l'implication notamment de Henry Cavill. Henry Cavill, qu'on n'arrête plus, hein, qui a fait. Il a joué Superman, il a joué Geralt dans The Witcher, il a joué. Il a joué quoi d'autre? Il a joué Sherlock Holmes. Enfin, ça va devenir un petit peu Monsieur Pop Culture à force, peut-être. Après c'est un mec qui est plutôt qui a l'air plutôt passionné, donc
Bah, c'est un gros
ses
game,
intentions ont l'air
ouais,
louables.
c'est un gros joueur aussi hein, pour le coup.
Ouais.
Il a pas mal partagé sur ça, mais c'est quelqu'un qui a fait les sagas, qui enfin c'est pas non plus quelqu'un qui pop en disant ouais ça a l'air cool. Tu vois, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a investi dans les univers dont il joue quoi. Enfin, de toute façon pour un mec qui joue Superman, qui joue The Witcher, enfin qui joue Geralt de Rive et qui là va jouer potentiellement un personnage de Mass Effect, je pense qu'il faut quand même être investi dans ce genre d'univers quoi.
Oui. Donc il y a ce projet-là. Il y a
Mais
ce
du coup,
projet-là.
t'espères quoi, toi? Parce que je sais qu'il y a. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y avait une photo qui avait fuité de ces deux. Enfin, qu'il avait mis sur Instagram. Et les gens avaient enlevé le flou et tout pour lire. Et il y avait écrit sur justement la feuille Serbe russe. Il y avait écrit Thalie. Enfin, Thalia, pardon, il y avait écrit plein de trucs. Et du coup, il y avait quand même un peu la crainte aussi que ça se passe bah, finalement dans l'univers des jeux, ce qui serait peut-être une erreur. Enfin.
Bah, moi j'avoue que ça me poserait problème dans le sens où. Après, à voir. Mais l'univers des jeux, pour moi, c'est un film déjà, ce qui se passe.
Ouais, voilà, exactement.
Alors, refaire ça en live action, à voir. Je veux pas faire de procès d'intention non
Est-ce
plus,
que ce
mais ça
sera
peut être
pire
très
que
bien.
Cowboy Bebop version live action?
Alors, je connais pas le matériau original et j'ai pas vu la série, donc
D'accord.
je serais bien en mal de te le dire.
Eh bien, écoute, je t'enverrai des vidéos et puis je pense que tu auras ta réponse assez facilement.
D'accord. Mais ouais, non, je sais pas. Après, y a l'univers est vaste. Je sais pas. S'ils pouvaient faire quelque chose un peu.
Bah, notamment, c'est ce qu'on enfin, je disais tout à l'heure, tout ce qui se passe avant, moi je trouve que ce serait cool, tu vois. Puisque de toute manière, c'est quelque chose qui est déjà acté. Tu sais, c'est un peu l'effet qui, moi, m'avait beaucoup plu. C'est un peu l'effet de. Ah, putain, j'ai perdu le nom du. Tu sais, du film Star Wars qu'ils ont fait sur la destruction, sur le vol des plans de l'étoile noire.
Rogue One?
Rogue One, voilà, pardon, j'avais complètement zappé le nom. Rogue One, moi, j'ai adoré parce que. On savait la fin, puisque c'était inscrit dans l'histoire, on savait enfin, on avait le début, la fin, pas le milieu, mais du coup, il y avait une certaine liberté, je trouve, des scénaristes, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas décevoir les gens sur la fin, puisque la fin était connue, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et donc, tu peux totalement te faire plaisir sur ce qu'ils racontent après, au milieu, et le rendre cohérent. Et ça, je trouve ça tellement plus cool que d'aller forcer à inventer quelque chose dans un univers comme ça, parce que je pense que tu vas toujours décevoir les gens, quoi, globalement.
Ouais. Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Et du coup, avec ce projet de série, on peut revenir sur le projet de jeu suivant. Donc un jeu donc qui reprendrait. On sait pas en fait. On sait pas trop. En tout cas, il y a on nous a montré Liara, donc un personnage de la trilogie. Alors ils avaient refusé de faire une suite à la trilogie pour la raison simple qu'ils voulaient pas dire, vu qu'il y avait plusieurs choix de fin, ils ne voulaient pas dire bah, cette fin, c'est la vraie fin, et pas les autres. Là, mettre un personnage de la trilogie, ça me paraît
Oser, ouais.
un peu osé. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Là, ils ont sorti aussi une image pour je sais plus, pour le N7 Day,
Ah oui,
pour
ou quand on
le...
zoome, on peut voir un Krogan, non, déjà, je crois.
Ouais. Donc il y a eu un trailer, une image qui a été sortie, et en fait, d'après les rumeurs, encore une fois, ça se centrerait sur les guettes, l'histoire. Il y a un
D'accord.
peu une... Bah, justement, sur l'image qui est présentée, on voit comme une silhouette, enfin, il y a un cratère qui est très similaire à l'apparence des guettes. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il y a des gens qui disent que potentiellement ça pourrait être lié aussi à ce qui se passe dans Andromeda. Moi, je pense que ce serait bien
Complètement.
quitte à essayer de réunir les deux. Je sais pas.
Bah de donner notamment les prémices d'Andromeda, peut-être. Ce serait intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, d'arriver à lier. Même, peut-être, même sans que ce soit trop forcé, tu vois, mais d'arriver à avoir plus que des clins d'œil, mais vraiment des discussions qui soient liées à ce projet. Enfin, c'est ce genre de choses, tu vois, de vraiment avoir l'univers, d'arriver à intégrer les différents jeux sans que ce soit trop forcé, quoi. Ça, ce serait cool, en effet. Mais en tout cas, bonne chance à eux, parce que. Pour moi, et je pèse mes mots, mais pour moi, c'est la même ampleur de travail que la série sur le Seigneur des Anneaux, qu'Amazon va aussi faire. Et c'est le même pari risqué, puisque si c'est un pari réussi, bah écoute, je pense que nous serons tous employés d'Amazon d'ici quelques années. Et si c'est un pari raté, bon, ils ont assez de thunes pour rebondir, mais ce sera en tout cas, je pense, la fin de ce projet de série, quoi.
Ouais.
Mais bon, après, faut attendre de voir. En tout cas, c'est sûr que moi, que la série, je lui donnerai sa chance et j'éviterai
Oui.
de peut-être trop me fier à ce que disent les gens, en bien ou en mal d'ailleurs. Parce que voilà, quand ça déchaîne les passions, notamment comme pour le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il vaut mieux se mettre en mode grotte et regarder ça de son côté et ensuite en discuter éventuellement.
Ouais. Mais c'est exactement comme ça que moi j'ai fait Andromeda, je l'ai fait 2 ans ou 1 an après sa sortie. En fait, du coup, j'ai pu avoir un avis à froid, tu vois. Après tout le tumulte qu'il y avait eu autour du jeu. Et je trouve que c'est la meilleure manière un petit peu de voir les choses, parce que si tu te laisses embarquer par un élan passionné, tu peux avoir de mauvaises surprises, quoi.
Ouais, bah carrément. Bah après, des niveaux projets du coup de Mass Effect, je pense qu'on a fait le tour, non? Bon, c'est déjà pas mal, hein,
Ouais,
tu me
ouais,
diras
ouais.
de ce qui en
Ouais,
sort.
c'est ça. Bah, après, il y a eu, si l'univers vous intéresse, il y a eu plusieurs comics qui sont sortis. Il y a eu
Des romans aussi, non?
des romans. Il y a eu des. Il y a eu un animé. Un animé sur James Vega, qui est pas forcément le personnage le plus intéressant de Mass Effect,
On va pas se mentir.
mais qui est plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé bon, j'ai pas de grands souvenirs, mais j'ai pas passé un mauvais moment, quoi. Et je me suis pas senti trahi non plus, quoi. Voilà, c'est tout ce qui.
Mais est-ce que ce serait pas l'heure de passer aux recommandations?
Et
Les
oui.
seules, les uniques, les fameuses.
Allez.
Alors pour le coup en plus j'ai rien préparé donc je suis un peu naze parce que c'est moi qui lance le truc mais j'ai pas préparé grand chose. À la base en plus je comptais parler de The Expanse mais du coup on l'a déjà évoqué donc je vais pas faire le gros nulos.
Non mais si, moi j'ai une idée, une recommandation que je suis sûr que tu ferais. Parce que on n'en a même pas parlé, mais c'est les musiques.
Ah oui, complètement, ouais. En effet, ouais. Oui, si on veut rester dans le thème, c'est sûr de Mass Effect. Mettez-vous la musique, alors notamment, alors je sais plus, c'est quoi le nom encore, Victor? C'est Best Emotional.
Emotional Suite, Mass
Voilà,
Effect.
exactement. Mettez-vous ça pour bosser. Moi, j'ai écrit mon mémoire en écoutant ça, c'était parfait. Il y a des morceaux qui sont extraordinaires. Il y a un morceau que je mets souvent qui s'appelle, alors je sais plus si c'est Fall of the Krogan ou quelque chose comme ça, qui est notamment, enfin, qui est un morceau qui est pas mal lié à Mordine dans nos cœurs. Et du coup, voilà, celui-là est très fort. Bien sûr, les musiques de la fin du 3 sont très fortes, les musiques du 2 sont très cool, les musiques du 1, je connais un peu, enfin, j'ai un peu moins écouté, mais peut-être qu'elles sont très cool aussi, elles sont probablement très cool aussi. En tout cas, la bande-son vaut le coup. Et pour bosser, c'est super, donc allez-y. Et après, je donne juste une reco rapidement parce que. Alors, c'est totalement en dehors de Mass Effect, mais c'est parce que je suis en train de le lire en ce moment. Je suis en train de me relire L'Ascenseur Royal. Enfin, j'avais commencé à l'époque, mais je m'étais arrêté. Qui est du coup un monument de la fantasy. Et au cas où il y a quelques personnes comme moi qui étaient réfractaires parce que. C'est spécial à lire quand même au début, ben c'est juste génial. Voilà. Il faut s'accrocher un petit peu, c'est pas forcément évident. Robin Hobb, c'est toujours un peu assez descriptif, donc c'est parfois un peu lourd. Mais c'est génial.
C'est un
Voilà.
peu le germinal de la fantaisie.
Exactement. Mais après, je. Fin, l'histoire, enfin, comment dire, c'est pareil, c'est une question d'univers, mais l'histoire est vraiment très très cool. Donc foncez, et puis voilà. Donc The Expanse, la musique, la littérature, et faites-vous plaisir.
Ok, bah moi j'ai une recommandation qui est dans le thème de Mass Effect.
Oui, bah pardon, hein, c'est normal.
Eh oui, parce que moi j'ai travaillé, monsieur. Non, 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 moi je voulais recommander un projet de fan de Mass Effect. Si vous aimez le jeu de rôle, c'est donc quelqu'un qui a fait un jeu de rôle dans l'univers de Mass Effect. Un jeu de rôle donc qui est pas officiel. C'est un jeu qui s'appelle. Vous pouvez le trouver sur internet sous le nom de Mass Effect Nouvelle Ère. C'est un très chouette jeu, un travail de fan, donc quelqu'un, donc Renaud Lothiau, qui a écrit tout seul le livre des règles, les fiches de personnages, tout ça, un univers donc avec qui se passe après donc la trilogie, avec un scénario vraiment très chouette. Et du coup, c'est un projet qui n'est pas officiel, mais qui a l'autorisation de la part de BioWare, donc les éditeurs de Mass Effect, les développeurs de Mass Effect, et ils ont le projet, le droit d'exister,
Officiel quoi.
sans être officiel, voilà. Donc c'est vraiment très chouette, si vous aimez le jeu de rôle, je vous le recommande chaudement.
Écoute, super, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je sais même pas si on a un générique, mais j'ai envie de lancer un gros générique.
Générique. Allez.
tu sais, avec le petit regard caméra que vous ne verrez pas du coup, mais en se
Exactement.
retournant comme ça et en lâchant un gros générique. Merci à tous qui sont passés, merci à tous ceux qui sont passés par là, pardon, pour votre écoute. Et puis on se dit à la prochaine pour du coup cette nouvelle saison de Déviation qui commence par un truc qui n'est pas un Déviation, mais c'est pas grave, nous on fait les choses
C'est dans
de manière.
l'univers étendu.
Voilà,
Donc ça va.
exactement.
Voilà.
Tout se passe bien. Et écoutez, bonne soirée, bonne journée et à la prochaine.
Salut!